au matin matin. Dans le gris anthracite d'une journée recommencée, d'un temps perpétué, d'une éternité, quelques couleurs émergent le matin pour nous faire comprendre que le jour se lève. Le rouge d'un baiser sur les lèvres, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Le noir d'un coup de pied au cul, va-t'en, ne reviens pas. Le jaune pisseux d'un RER B passé sous son nez, et l'autre qui viendra quand ? Et puis les autres couleurs, le bleu d'une percée dans le ciel, d'un sourire en coin, reviens. Et puis l'étrange orange d'un fruit pressé par une main amie, les couleurs de la journée, tapis sous le gris, l'éternité. Alors, tout le monde a un petit peu travaillé ce matin ?
Ouais.
On va voir
oui,
ça.
Oui, tout à fait.
À tout de suite, petit titi.
Bonjour Edouard.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps.
Dans un premier temps, poliment,
voilà,
élégamment.
Il est 7h01.
Bonjour.
Bonjour, un petit bisou cette journée-là.
Radio Nova.
200.
Non, non.
Laissez-le commencer.
Ah, vous avez raison. Pardon,
D'autant que je ne peux pas être plus précis.
Je peux pas être plus...
298 497 euros et 47 centimes.
Je voulais vous dire, ne commencez pas par des infos trop dures, parce que quand on fait une vanne, après on a honte.
C'est vrai.
Non, mais 200 pas... morts, et là non, on aurait été dans la merde.
C'est là que ça aurait été difficile.
On aurait vraiment été gêné des lettres d'excuses à n'en plus finir du CSA.
200 000 roses sont arrivées. Là,
donc commencez toujours, Thierry, s'il vous plaît, par un truc anodin.
D'accord.
Merci.
Alors, c'est pas anodin, mais il n'y a pas de mort. 298 497,47 euros, c'est précisément la somme que Marine Le Pen devait rembourser avant minuit hier soir aux parlementaires européens. On ne sait pas si elle l'a fait. Donc, elle a rémunéré deux assistants parlementaires qui, en réalité, travaillaient au siège du Front National. Voilà pour le contexte. La candidate du FN, en tout cas, a fait savoir hier dans la journée qu'elle n'entendait pas rembourser cette somme, donc aucune raison qu'elle l'ait fait cette nuit. Le Parlement européen a fait savoir, lui, qu'en cas de non-paiement, Marine Le Pen pourrait se voir retirer la moitié de son salaire et de ses indemnités journalières, ainsi que la totalité de ses frais généraux.
C'est ça l'affaire que je crois que c'était c'est de la famille Fillon. J'embrouille tout, moi, je comprends
pas. Non, Fillon, c'est dans d'autres proportions et c'est à des fins d'enrichissement personnel. A priori.
On ne comprend plus rien.
Bah, François Fillon, il a beau se déclarer confiant et serein, les taux se resserrent quand même chaque jour un petit peu plus sur le candidat de la droite à la présidentielle, qui est déjà quand même bien embourbé depuis une semaine maintenant dans ce qu'il convient d'appeler l'affaire Pénélope. De nouvelles révélations viennent assombrir encore un peu plus le tableau. Selon le Canard enchaîné, encore lui, du jour, les sommes perçues par l'épouse de François Fillon au titre d'attaché parlementaire présumé, ainsi qu'à la revue des Deux Mondes, s'élèveraient non plus à 500 000 euros, mais à 900 000 euros. On a appris en outre que Pénélope Fillon ne disposait pas de badge pour pouvoir entrer à l'Assemblée nationale, ni d'adresse mail personnelle, mais ça, c'est possible. On a surtout appris que le couple Fillon aurait aussi embauché ses deux enfants comme attaché parlementaire au Sénat, cette fois pour 84 000 euros à temps plein, alors qu'ils étaient encore étudiants. Et c'est peut-être pas terminé, sans doute pas d'ailleurs, le candidat de la droite pourrait se retrouver en difficulté sur d'autres fronts. On évoque une autre affaire d'emploi fictif d'un proche du candidat de la droite notamment. Et puis on évoque aussi une société de conseil qui aurait permis à François Fillon de s'enrichir de façon exponentielle, toujours en lien avec cette revue des Deux Mondes.
Tapez un peu de l'autre côté, ne faites pas un journal gauchiste. Vous n'avez pas un élu de gauche qui a fait des conneries ? Il y en a.
Si, on va trouver ça.
S'il vous plaît.
Reste que toute cette affaire...
Il y en a aucun qui se présente.
Dis donc.
Toutes ces affaires, en tout cas, aiguisent l'appétit de certains qui commencent à sérieusement envisager un plan B à droite. Considérant que François Fillon est d'ores et déjà cramé, au centre aussi la situation interpelle. Ma décision n'est pas prise, mais je ferai ce qu'il faut pour que la France s'en sorte. C'est ce qu'a déclaré hier soir François Bayrou à propos de son éventuelle candidature à la présidentielle. Et puis dans une interview aux Inrecuptibles, Christiane Taubira se déclare atterrée par les faits d'Emmanuel Macron sur les jeunes esprits, je la cite bien sûr. Elle lui reproche de méconnaître le clivage droite-gauche, toujours selon l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande. La voix de Benoît Hamon est un vrai renouvellement, tandis que Jean-Luc Mélenchon se perd un peu dans les sables. Fin de citation. Peut-on parler d'un début d'hémorragie au PS ? Dans une tribune au Monde, des députés PS évoquent un droit de retrait après la victoire de Benoît Hamon à la primaire. Les députés Christophe Caresch et Gilles Savary, notamment, représentants de l'aile droite du Parti Socialiste, estiment que les conditions de soutien à Benoît Hamon ne sont pas réunies.
Après le retrait de...
Après le retrait de... J'ai parlé d'un retrait ?
Oui, le retrait de Benoît Hamon à la primaire, vous avez dit.
Ah, pardon, non, après l'élection de Benoît Hamon à la primaire. Ils estiment donc, ces deux parlementaires, que les conditions de soutien à Benoît Hamon ne sont pas réunies. Et en parallèle de cette tribune, donc, le parti d'Emmanuel Macron lui enregistre une poussée, entre guillemets, d'adhésion depuis dimanche.
C'est celui qui chantait bleu, 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 le ciel...
Marcel Hamon.
Ah, pardon.
Je pense que c'est
son
oncle.
C'est plus Marcel, pardon.
Le suspense est terminé. Donald Trump a annoncé hier soir la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch, 49 ans, au 9e étage vacant de la Cour suprême des États-Unis. C'est un ultra-conservateur, il est aussi contre l'avortement. Faut-il aménager ou non la loi littorale ? Après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui en débattait hier. Plusieurs élus de l'opposition souhaitent faciliter la construction de bâtiments sur certaines zones côtières pour promouvoir l'activité économique. Il y a une pétition sur Internet qui circule et qui s'intitule « Ne touchez pas à la loi littorale ». Le début des 16e de finale de la Coupe de France de football hier soir, Marseille a battu Lyon 2-1 et se qualifie donc pour les 8e. Qualification aussi de Bordeaux qui a battu Dijon sur le même score. Qualification surprise de Bergerac qui à domicile a battu Lens 2-0. Nantes est éliminée, battu 1-0 par Lille. Suite des rencontres ce soir avec notamment Rennes contre le Paris Saint-Germain, Auxerre contre Saint-Etienne, Angers contre Caen et Chambly contre Monaco. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations, le retour, le début des demi-finales aujourd'hui avec le Burkina Faso contre l'Égypte. Demain, le Ghana sera opposé au Cameroun.
Non mais il y a eu un bruit, je n'aime pas ça du tout.
Non mais c'est mon téléphone qui est tombé.
Ne répondez, il y a eu un bruit pendant le journal de Thierry Paré.
C'est vrai. Moi je suis d'accord avec Edouard.
Qui est un service à l'auditeur. Parce que Bernard Zécry m'a dit, sinon les gens vont zapper.
Oui.
Si on ne fait pas des impôts, ils vont aller chercher les infos ailleurs. Et
moi, je suis
grâce
d'accord
à Thierry
Edouard.
Paré et à son talent.
Mais je vais savonner la planche.
Et vous avez fait
Ben oui, ouais. J'ai fait ça.
D'un geste de dédain même.
C'était de savonner la planche, lui de lui mettre un petit coup.
Moi, je suis d'accord
un
avec
petit coup
Edouard,
dans les talonnettes.
Je trouve que vous n'êtes pas bon camarade, parce que quand vous parlez, personne ne fait.
Oui, c'est pas très fair play.
Mais non, c'est pas moi, c'est Arnaud Aymar qui a fait ça.
Alors c'est peut-être Arnaud Aymar.
Si.
J'étais. Voilà, enfin, j'aime pas trop qu'on comprenne ce que je dis, donc.
Mais voilà, c'est lui.
Ben ça, c'est réussi
ça,
déjà.
C'est lui.
Ça, cette partie-là, elle est réussie.
C'est mon avocat.
Est-ce qu'il ne serait pas temps, je dis ça, oui. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'écouter la météo de Tito ? Qui va être comment ? On va partir sur quoi, Tito ? Tito prend sa guitare qui est au fond du studio, donc à 200 mètres d'ici.
Tito prend sa guitare qui était
une Tito, chanson. C'est une guitare de bois qui a été faite par un maître guitarier ?
Ouais, tout à fait, un luthier, on dirait.
Eh ben, on en apprend. Alors, il faut donner. Moi, je trouve qu'on donne des villes qui n'ont pas forcément Nova, il n'y a pas de raison de leur donner la météo. Donc, il faut donner la météo qu'aux villes qui ont Nova, à Montpellier, à Brest, voilà, à Angers,
à Pau.
Il y a pas de, les autres ne le méritent pas. Allez-y quand même.
Alors aujourd'hui, eh bien, il pleut dans le nord, c'est-à-dire Cherbourg, Sedan, Amiens et Lille. Dans le centre, Paris, Orléans, Tours, Nantes et Dijon, c'est nuageux. Et du côté de La Rochelle, Clermont-Ferrand, Grenoble, Marseille, Perpignan et Biarritz, eh bien, il y a un petit peu de soleil. Les températures sont variables. À Lille, entre 6 et 11. Le Havre, entre 9 et 13. Dans le centre, où il fait un peu de nuages. À Paris, entre 6 et 14. Orléans, entre 6 et 12. À Strasbourg. Et après, dans le sud, 5 et 16 à Clermont-Ferrand. 11 et 16 à Nîmes. 9 et 17 à Toulouse. Et 10 et 18 à Biarritz.
Non, ça c'est savez-vous planter des choux.
Non, ça va. Allez-vous planquer vos sous, comme disait notre ami Fillon.
Dis donc, c'est brillant. C'est le thème des deux ânes.
Oui, c'est le caveau de la République.
7h, 9h, plus près de toi.
Il est bizarre ce morceau, il s'étend comme un marshmallow un peu. Hein.
Vous pensez qu'il est malade ?
Mais il y a un truc un peu, il se détend. On est avec Alain Soufflant.
Bonsoir.
Alain Soufflant, vous êtes le patron des cafés du commerce à travers la France. Plus de 700 établissements sous cette appellation, vous les contrôlez. Remettez-lui un petit jingle.
Je les contrôle de façon, je les dirige et... J'achète,
tous les matins, donc, des gars, vous dites les gars quand vous parlez avec beaucoup de tendresse dans la voix, arrivent au comptoir le matin, alors c'est qui un petit kawa, qui un petit alcool, ouais. Qui un œuf dur au coin du comptoir et ça cause.
Et ça cause, on discute de tout et de rien, on discute de plein de choses.
Et vous me dites, c'est ça qui fait une démocratie, c'est que, mais tout le monde a le droit de citer, a le droit de...
Tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de prendre sa tournée, puis...
Alors justement, on va en faire un, allons-y, remettez ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a ce matin, nous, ici ? Qui a noté des choses ce matin ?
Moi, j'ai dans le Parisien.
Marie Misset.
Il y a toujours un honneur aux dames.
Voilà, photo au comptoir.
Oui.
Merci à toi.
Marie, qu'est-ce que vous
j'ai
avez vu ?
J'ai vu un échange d'œil de verre contre urne funéraire. C'était il y a très longtemps au manoir de Montretout quand Pierrette a quitté Jean-Marie Le Pen.
Oui.
Après avoir posé en une de Playboy pour se venger, elle avait aussi volé son œil de verre de rechange. Quelques temps après, lui, il avait une monnaie d'échange super chouette qui était l'une des funéraires de sa mère à elle.
Oui.
Du coup, ils se sont rencontrés à l'orée d'un bois pour échanger l'un contre l'autre.
Est-ce que c'est, vous trouvez que c'est très gentil de dire ça?
Je ne trouve pas que ce soit méchant.
C'est à part la famille,
ça montre un petit peu.
Alors, on recevra tout à l'heure, justement, on recevra Mathieu Dejean qui a écrit le livre sur, sur l'enfance de Marine Le Pen. C'est tout à fait étonnant que vous en parliez, justement.
Voilà.
Alors, la Philippe Sprank, vous, ce matin, vous étiez au bistrot?
Non, non, que le kiosquier, il a interpellé une cliente. Il a dit, vous n'auriez pas un euro? Elle a cherché sa petite pièce d'un euro. Et elle a dit, mais c'est pourquoi? Eh bien, elle dit, c'est pour Fillon, ça fera le million.
Donc, tout de suite, de l'esprit dès le matin. C'est pour ça que c'est dommage la fermeture des kiosques, parce qu'il a plus d'esprit qu'un Internet, qui a moins d'esprit. Atmen.
Moi, j'ai lu dans l'excellent Parisien l'arrivée des uri-trottoirs. Ah. Voilà, pour que ça n'empeste pas le pipi dans Paris, ils ont installé Gare de Lyon, deux uri-trottoirs à ciel ouvert où vous êtes très pressé, vous ne rentrez pas, vous ne mettez pas la pièce, vous pissez directement dans un bac à compost. Voilà, ça évite l'odeur.
Je regrette le moment où je vous ai passé la parole.
Pourquoi?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais attendez, c'est une information très pratique.
Paco,
vous pouvez faire pipi.
Bonjour,
mais...
je lis maintenant, là, dans l'inhumanité, je lis que Koutchev... il va pas, il est pas en forme.
C'est un numéro de 1960 que vous avez là. Merci. Thierry Paré.
Oui, j'ai vu deux trucs rapides. Moi, j'ai vu qu'au Costa Rica, plus de 98% de l'énergie consommée était verte.
Oui.
Chez nous, c'est 14%. Je ne sais pas si vous imaginez la différence. C'est quand même énorme, quoi. Et puis en Inde, ils vont envoyer 104 nanosatellites, enfin des satellites tout court d'ailleurs, en un unique lancement. Et ce sera le 15 février. Et ce sera un record mondial. On n'a jamais fait ça. On comprend pourquoi. Évidemment, ça va coûter moins cher. Mais s'ils se plantent, ça va coûter très cher.
Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces satellites?
Ça va concerner les États-Unis notamment. Des satellites télécom.
C'est pas possible.
Si, c'est bien. Ah non, c'est bien.
Donc la blague, c'est comme c'est des Indiens, ils envoient des nanas. Vous êtes content. Et si c'était des Chinois, ça serait des nems. Et si c'est des Français, c'est des baguettes de pain. Et des Italiens, c'est
non,
des.
Non, moi j'aime bien.
C'est des pâtes. Armel, vous.
Oui. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche depuis tout à l'heure?
Je mâchonne le haut du stylo bic.
Les auditeurs n'entendent pas bien.
Les gens veulent savoir.
Trois expressions bien de chez nous. Il y a grosse truffe. Il y a trompette et grosse daube. Alors, les truffes, parce qu'il n'y en a plus, c'est la fin de la saison, on ne va plus à manger maintenant, il y en aura l'année prochaine. Grosse daube.
J'ai pas compris.
Grosse daube, voilà, parce que tu vas la faire. Non, mais on va revenir sur
c'est
l'histoire.
C'est des insultes de chez vous.
Ben oui,
ouais, c'est mignon. Hein. Trompette, c'est joli, non?
Dans quel cas on dit à quelqu'un t'es une trompette?
Mais quand c'est une trompette, c'est facile.
C'est un bel tringue.
Et comment on distingue une grosse daube d'une trompette?
Eh bien, une grosse daube, c'est le trompette qui a mijoté.
Il n'y a que des trompettes autour de la table. Alors. C'est ça que je voulais dire.
Qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous retenu? Est-ce que nous nous sommes élevés? À vous de le décider en commençant à voter massivement pour votre chroniqueur préféré. Se retrouver sur Internet nos coordonnées. À tout de suite, peut-être. Au mieux, à tout de suite. Mais Aurélien Salé, vous arrivez avec ces badges, libérez-vous, entreprenez votre vie partout?
Partout.
Mais alors les gens les portent et ils se sentent mieux?
Ils sentent mieux et surtout on essaye, c'est le but de notre action Entreprenez votre vie, de permettre à tous ceux qui auraient envie, qui sont sur le point de vouloir se lancer, qui se disent j'aimerais bien, j'en ai marre de mon patron. Il y en a aujourd'hui en ce moment qui nous attendent,
bon,
qui ils vont aller au boulot, ils en ont marre de leur patron. Ou alors ils ont une super idée, ils ont envie d'y aller, puis ils osent pas. Parce qu'en France c'est compliqué. Eh ben non, c'est pas compliqué. Il y a plein de gens comme nous qui sont là pour les aider. Il y a énormément de réseaux qui aident les personnes à entreprendre. Et nous on est là pour essayer de leur donner envie et surtout les aider très concrètement dans les territoires. Alors, c'est l'action qu'on mène.
Le salon des entrepreneurs c'est aujourd'hui et demain. Vous dites les gens ont peur de se lancer, c'est quoi? On se dit que ça coûte de l'argent, qu'il y a énormément de paperasse, qu'on n'y arrivera jamais quand on a une idée?
Exactement, qu'il y a beaucoup de paperasse, que c'est risqué, qu'on est bien mieux chez soi avec un salaire même si on s'emmerde dans ce qu'on fait, et que c'est un peu l'aventure. On est dans un pays où on a peur, il faut arrêter d'avoir peur.
Mais est-ce que c'est pas plus simple, Aurélien Salé, aujourd'hui quand même, de monter une entreprise individuelle, en tout cas un autre, être
auto-entrepreneur?
Bien sûr,
c'est pour ça qu'on peut se permettre d'inciter les gens à y aller. Hein. Quand on a créé avec Hervé Novelli en 2009 le régime de l'auto-entrepreneur, c'était l'idée. L'idée, c'était de permettre à chacun qui a envie de pouvoir le faire, sans chiffre d'affaires, pas de charge, pas de risque. Donc, ça marche, ça fonctionne. On est aujourd'hui à plus de 554 000 entreprises de créer l'année dernière. Deux tiers sont des entrepreneurs individuels. Les personnes que moi j'appelle le peuple des entrepreneurs, dont beaucoup, enfin peu s'intéressent, parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec eux, mais qui sont l'âme de nos territoires, c'est les personnes qui, tous les jours, font vivre vivent, font vivre leur famille par le travail qu'ils font. Ils se lèvent, ils bossent, mais ils bossent pour eux. Ils entreprennent leur vie, ils se prennent en main. Et nous, on pense que l'avenir du pays, en grande partie, pour plein de raisons, le numérique et autres, mais aussi pour une vraie volonté d'autonomie de la population, les gens ont envie de se prendre en main. On les aide, on les y encourage. On n'est pas les seuls, évidemment, au Salon des entrepreneurs. Il y a plein de gens qui les aident. Justement, j'incite tous ceux qui ont envie d'y aller à y aller.
On se rend compte ces temps-ci, Aurélien Salé, qu'il y a aussi l'autre côté de la médaille de l'auto-entrepreneuriat, à travers des cas comme Uber, par exemple. C'est-à-dire que c'est du vrai faux salariat. Donc, il y a un biais dans l'auto-entrepreneuriat.
Très important. Et on le voit d'ailleurs pendant la campagne présidentielle. Il y a deux axes aujourd'hui qui sont en train de se créer. Ceux qui voient effectivement des indépendants comme des sous-salariés ou des salariés low cost. C'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Pour nous, les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs, c'est avant tout des entrepreneurs. Et on veut vraiment confirmer, affirmer, conforter ce sujet-là. Vous avez des candidats aujourd'hui qui militent pour l'assurance chômage pour les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs indépendants, et surtout le fait qu'ils soient rattachés à l'URSSAF.
Et c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, par exemple, mais Bruno Le Maire, par exemple, avait ce même type dans sa campagne primaire, avec ce même type de vue. Donc, ça peut paraître moderne, ça ne l'est pas du tout. Des entrepreneurs individuels, c'est avant tout des entrepreneurs. Et un entrepreneur, sa première volonté, c'est pas d'être assuré au chômage. Donc il y a un vrai combat idéologique, entre guillemets, pour faire de la France un peuple d'entrepreneurs, ce que l'on prône, et pas simplement de passer les problèmes du salariat, de la lourdeur du salariat en France, en faisant des salariés low cost. Un entrepreneur individuel, les personnes que l'on aide, on a plusieurs centaines dans la France, à Calais, à Arras, à Reims, dans les territoires. Ils ne sont pas des faux chauffeurs de taxi, ils sont des coiffeurs, des boulangers, ils réparent des vélos, ils inventent des choses, ils créent. C'est des entrepreneurs.
Alors, Aurélien Salé, à travers Entreprenez votre vie, vous créez en fait localement, essentiellement d'ailleurs Nord-Pas-de-Calais et autour de Reims pour le moment, un réseau local de soutien aux auto-entrepreneurs, c'est ça ?
Exactement, c'est très simple, notre action elle est très simple. On fédère d'abord tous les acteurs locaux de l'entrepreneuriat. On n'arrive pas sur le terrain en disant, écoutez, nous on sait ce que c'est que les entrepreneurs, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, non, tout le monde fait sa part. On a créé Bleu Blanc Zèbre avec Alexandre Jardin il y a 4 ans maintenant. Avec cette volonté, comme le dit Rabhi et Colibri, chacun doit faire sa part. Donc nous, on n'arrive pas en terrain conquis, justement. On fédère, et autour des collectivités, avec les mairies, on fédère tout le tissu local, au profit de ceux qui entreprennent de façon individuelle, qui en général sont tout seuls. Le vrai problème de l'entrepreneur individuel, c'est qu'il est tout seul.
Parce qu'il n'est pas visible, parce qu'il est sous le radar des chambres de commerce et d'industrie,
parce qu'il
n'a
pas de réseau, parce qu'il n'a pas de carnet d'adresse, parce qu'il n'a pas un compte bancaire fourni. Donc, il est tout seul, il a une envie, il a une volonté. Une fois que sa famille et ses amis ont commencé à le faire travailler, après, ça devient plus compliqué. Donc, nous, c'est simple, on fédère les réseaux et après, on leur amène des outils concrets à ces gens.
Bah, concrètement, si Edouard Baird veut devenir plombier dans le Nord-Pas-de-Calais, voilà, comment vous l'aidez?
D'abord, Edouard, il va falloir faire une petite formation parce qu'on s'improvise pas plombier. En plus, c'est un métier artisanal, il faut avoir des qualifications, mais passons sur ce sujet. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, avec le digital notamment, on a énormément d'outils qui permettent à n'importe qui de pouvoir trouver des clients, se promouvoir et trouver des financements alternatifs. Quand vous êtes entrepreneur individuel, c'est très compliqué d'aller trouver 1 000 ou 2 000 euros auprès de votre banque. Eh bien, nous, on amène du crowdfunding, on offre du crowdfunding. On vous offre une vidéo qui vous présente vous et vous présente votre métier. C'est très important aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. On vous apprend à les partager. Mmh. On vous offre un compte nickel, un compte en banque sans banque. Je ne sais pas si vous le savez.
Ouais, on en a parlé, bien sûr, le compte nickel, c'est formidable.
C'est génial, 20 euros. Vous avez un RIB.
On peut acheter un compte en banque comme ça dans un débit de tabac.
Ouais, pour 20 euros. Et parce que si vous n'avez pas de RIB, vous ne pouvez pas être entrepreneur individuel. Vous êtes obligé d'avoir un compte. Donc nous, on vous l'offre ce compte. Et au Salon des entrepreneurs, on noue un partenariat dont je suis très fier et heureux avec Wiko, qui est le constructeur français de téléphones mobiles, et une boîte qui s'appelle SumUp, qui va permettre, et là aussi on l'offre à nos lauréats, qui va leur permettre de pouvoir encaisser des cartes bleues avec leur téléphone mobile. Donc il y a énormément de solutions. Nous, on en a 5 aujourd'hui, on en a d'autres qui vont arriver. Il y a plein de solutions qui existent. On les apporte dans les territoires. À Reims, c'est 100 lauréats en un an, aujourd'hui. Et effectivement, ça crée un réseau d'entraide entre des entrepreneurs individuels, les collectivités, les réseaux. C'est positif et ça donne à chacun l'envie d'entreprendre sa vie.
Voilà, si vous voulez candidater à Entreprenez votre vie, un site internet
envovie.org.
ENVOVIE.org. Et donc, vous parliez du Salon des entrepreneurs, c'est aujourd'hui et demain, et c'est à Paris, au Palais des Congrès.
Tout ça est allé beaucoup trop vite pour moi. Je sais pas, vous étiez dans une énergie, j'essayais d'imaginer. Non, c'est bien. Merci, cher Aurélien
mais
Salé.
Mais plombier quand tu veux.
Non, mais je n'ai pas aimé votre appellation, Thomas, plombier. J'ai trouvé que c'était dans un entre-soi parisien de se moquer des métiers des régions. Je ne suis pas.
Ah non, je me moquais de vous. Non,
ah,
pas
de moi,
métier.
C'est bon, c'est voilà, avec okay. plaisir.
7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Pas du tout comme ça que j'avais vu le truc, moi.
Plus.
J'avais pas prévu le truc comme ça du tout.
Lequel ?
Mais en général, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais
vous
pas
le voyez la, comment, alors ?
La vie, tout ça, je pensais pas que ça se déroulerait comme ça. Quand je suis né, quand j'étais enfant, je ne voyais pas ça comme ça. Vous L'adolescence voyez... est arrivée, j'ai été très surpris.
Oui.
Les transformations du corps, la vision des choses, le rapport au monde, à la famille. Mmh. Ensuite, à l'âge adulte, la vie, je ne voyais pas ça comme ça.
Ça fait 50 tu ne la voyais pas comme ça, ta vie ?
C'est 50 euros.
Non, mais tu ne la voyais pas comme ça, ta vie ?
Je sors de la psychanalyse. Merci. Le journal Thierry Paré. Thierry, si vous pouvez placer un moment que c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui, elle vous en saura gré.
Très bien.
Et celle de ma sœur.
Non, alors non, ça non.
Mais c'est vrai.
Oui, mais c'est moins important.
Le suspense est terminé. Hein. Donald Trump a annoncé hier soir la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch, 49 ans, au 9e étage vacant de la Cour suprême des États-Unis. C'est un ultra-conservateur qui a milité notamment pour... Enfin, c'est un anti-avortement, notamment. L'Algérie s'est enfin débarrassée des mines de la guerre. 8 854 849, c'est précisément le nombre de mines qui ont été détruites par l'armée algérienne depuis l'indépendance du pays. 298 497,47 €, c'est précisément la somme que Marine Le Pen devait rembourser avant minuit hier soir aux parlementaires européens pour avoir rémunéré deux assistants parlementaires qui en réalité travaillaient au siège du Front National. La candidate du FN a fait savoir hier dans la journée qu'elle n'entendait pas rembourser cette somme. Je ne sais pas du tout si elle l'a fait cette nuit.
Alors ne notez pas tous les chiffres que dit Thierry Paré, hein. Vous n'êtes pas obligé parce qu'on oui. s'en... Vous êtes dans les chiffres.
François Fillon a beau se déclarer confiant et serein, c'est bel et bien l'anniversaire aujourd'hui de la maman d'Edouard. L'étau se resserre chaque jour un peu plus sur le candidat de la droite à la présidentielle, déjà bien embourbé depuis une semaine dans ce qu'il convient d'appeler l'affaire Pénélope. De nouvelles révélations viennent assombrir un peu plus le tableau, selon le Canard Enchaîné, encore lui, du jour. Les sommes perçues par l'épouse de François Fillon au titre d'attaché parlementaire présumé, ainsi qu'à la revue des Deux Mondes, s'élèveraient non plus à 500 000, mais 900 000 euros. On a appris que Pénélope Fillon aussi ne disposait pas de badge pour pouvoir entrer à l'Assemblée nationale, ni d'adresse mail. Mais bon, tout ça c'est possible. On a surtout appris que le couple Fillon aurait aussi embauché ses deux enfants au Sénat en tant qu'attaché parlementaire à temps plein, alors qu'ils étaient étudiants, pour 84 000 euros. Reste que toute cette affaire aiguise l'appétit de certains qui commencent à sérieusement envisager un plan B.
Je l'ai mis pendant ce temps-là.
Considérant que François Fillon est d'ores et déjà
cramé. C'est qui le plan B
cramé.
Bon anniversaire à la sœur d'Atmen. Ah.
B comme Barouin, par exemple, c'est ce que disent certains. Hein. B comme Barouin, on évoque aussi...
B
aussi
comme Juppé.
Wauquiez, mais Wauquiez, ça me paraît quand
même... B comme Sarkozy, non ?
Enfin bref, il y a aussi François Bayrou dans ce plan. Enfin, pas pour la droite, mais pour le centre, on va
il
dire
chez
François
lui, il fait
Bayrou, qui déclare ceci. Ma décision n'est pas prise, mais je ferai ce qu'il faut pour que la France s'en sorte. C'est ce qu'a déclaré François Bayrou hier soir, donc à propos de son éventuelle candidature. Peut-on parler d'un début d'hémorragie au PS, en tout cas dans une tribune au
moi,
Monde
c'est mes phrases
députés...
préférées des hommes politiques. Moi, je n'ai aucun intérêt à y aller, je n'ai aucune ambition personnelle, mais si je sens un vrai appel du peuple français et qu'il faut servir mon pays, je ne manquerai pas à mon devoir.
Dans une tribune au Monde, des députés PS évoquent un droit de retrait après la victoire de Benoît Hamon lors de la primaire. Les députés Christophe Caresse et Gilles Savary, notamment, représentants de l'aile droite du PS, estiment que les conditions...
Mais pourquoi vous dites un retrait de Benoît Hamon à la primaire ?
Mais j'ai pas dit ça, hein.
Retrait de Benoît Hamon...
Non, justement, j'ai fait attention, là, j'ai pas dit ça du tout, hein.
Non, les candidats proposent un retrait,
écoute bien. Dans une tribune, des députés PS évoquent un droit de retrait après la victoire de Benoît Hamon lors de la primaire.
C'est pas ce que vous avez dit.
Bah c'est ce qu'il a dit.
Ah, je suis formel.
Bref,
Christophe Caresse et Gilles Savary font partie de ces députés et ils estiment que les conditions de soutien à Benoît Hamon ne sont pas réunies. Est-ce qu'il faut aménager ou non la loi littorale ? Après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui en débattait hier, alors que plusieurs élus de l'opposition souhaiteraient faciliter la construction de bâtiments sur certaines zones côtières pour promouvoir l'activité économique. Il y a une pétition qui circule sur Internet, ne touchez pas à la loi littorale, et qui a déjà été signée par 150 000 personnes. Le début des 16e de finale de la Coupe de France de football hier soir, Marseille a battu Lyon 2-1. On retiendra surtout la qualification de Bergerac, quand même, qui a battu Lens à domicile 2-0. Ce soir, il y a d'autres rencontres, Auxerre contre Saint-Etienne, Angers contre Caen, le PSG qui se déplace à Rennes, et puis Chambly qui va recevoir Monaco. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations, début des demi-finales, il y en a deux. La deuxième, ça sera demain, Cameroun-Ghana, mais aujourd'hui, c'est le Burkina Faso contre l'Égypte.
Bonjour François Fillon.
Bonsoir.
Comment ça va ?
pas trop bien.
Eh oui. C'est fou.
C'est un peu. C'est pas très. Voilà, je suis pas dans, dans mon assiette.
C'est les boules, quoi.
C'est un peu les boules.
Oh là 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 là.
C'est pas évident, surtout que j'avais quand même bien préparé tout ça et j'avais vraiment des espoirs par rapport à ce que je voulais faire, mais
quelle
j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues.
Oui, là, il y a. Oh là là. Ça la fout mal.
C'est pas sympa, sympa, je trouve.
Puis à la maison, ça doit être la soupe à la grimace.
Oh ben, on ne sait plus ce qu'on se dire. On ne sait plus ce qu'on se dire. Et
les enfants, là, madame.
Ben.
Aïe, aïe, aïe.
Mm-hmm.
Pour le
ça fait mal. Ça fait mal.
Eh oui.
Ça fait pas des journées très, très contentes. Très bien.
Et parce que vous ne devez pas vous marrer du jour à la nuit tombée.
Ah ben non, on s'amuse pas trop. Je rentre par exemple.
Alors,
je rentre.
Après le boulot, bon
après le boulot, je rentre, je pose ma sacoche.
La sacoche. Il y a Madame Fillon qui dit, alors, t'es en fait engueuler encore.
Je dis, bah oui. Et elle me dit, bon,
c'est pas de ma faute quand même qu'elle doit dire, peut-être.
Bah non. Même si on a calculé les impôts 2016, quand on a calculé les impôts 2016, elle était quand même là, elle a quand même signé les papiers.
Construire un sketch, l'interpréter, il y a des professionnels pour ça. Ici à Radio Nova, ce sont des sketchs de proximité, trois phrases, une mauvaise imitation et vas-y comme je te pousse. Hein,
et le bonheur est là, j'ai envie de dire.
Le bonheur est
là. Le bonheur est là parce que l'important c'est pas d'être pertinent.
Non.
L'important c'est de vouloir.
Et puis tout le temps rire. Vouloir faire rire, c'est pas sain.
Non.
Tandis que là c'est un sketch sans effet, juste des mots.
C'est juste, c'est nous qui sommes ridicules.
Bien sûr. Et puis c'est de proximité. Tout le monde peut le faire chez soi.
Bien sûr.
C'est ça l'avantage par rapport à un sketch de professionnel qui est intimidant.
De Mako
sketch,
humoriste.
Oui, la boîte, oui. La boîte à Mako sketch, oui. C'est vrai.
Jacques souvent dans la.
Je crois que j'ai trouvé le bon spot. Je suis place Pérère. À ma droite, il y a la rue de Courcelles. À ma gauche, je ne vois pas, je crois que c'est Wagram.
Vous êtes dans le Paris des immeubles haussmanniens.
Oui, alors je vous fais un petit travelling. À gauche, j'ai un kiosque avec l'entrée du métro. Et puis vous allez me dire vers qui je vais aller.
Vers qui je vais aller.
Deux hommes discutent près du kiosque. Un homme se ronge les ongles sur la terrasse. Un autre avec une écharpe à carreaux et les cheveux gominés, une paire de lunettes, regarde sur son téléphone portable en buvant un verre de jus d'orange.
Ah oui, je vois.
Derrière lui, une femme en manteau de fourrure fume nonchalamment sa cigarette. À ma droite, un arrêt de bus avec un homme qui attend et une femme en manteau avec une écharpe rose. Une femme qui vient de me regarder avec un petit manteau léopard.
Foncez sur elle.
C'est un tournage.
C'est votre proie, c'est votre chance. C'est ta chance, tu l'as saisie.
Bonjour. Non, ça, c'est un vent absolu.
C'est, tout à l'heure, c'était une dame, maintenant c'est un vent. L'absence de dame, c'est encore une dame.
Bon. Je retraverse et retourne sur mon endroit. Un homme fume un cigare, il est en face de moi.
C'est pour toi, fonce.
Bonjour. Bonjour. Et il est bon ce cigare ?
Très bon.
Vous commencez à quelle heure le cigare le matin ?
6 heures. Oui, c'est très bon.
Là, vous êtes un pas pressé, vous avez un rendez-vous.
Oh, je vais au travail.
C'est un pas pressé ?
Voilà.
Et je peux vous accompagner ?
Si vous voulez.
Super, ça, c'est...
Je vais loin, hein.
Bon, à ce pas-là, on va aller loin.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, votre boulot ?
Ah, je suis un cadre de banque.
Ah, il y a de très beaux cadres en ce moment.
C'est pas bien ?
Si, c'est très bien.
Vous voulez changer de métier ?
C'est fini bientôt.
Vous en aviez marre ?
Non, pas spécialement, mais je m'arrête. Voilà.
Retraite heureuse ?
Retraite heureuse, dans un petit pavillon, dans le sud ?
Dans le sud.
Du
côté de Cannes. Ouais.
Vous allez super vite.
Oui.
Vous avez quel âge ?
60 et quelques.
Et le cigare ?
Vous voulez pas qu'on s'arrête sur le banc, là ?
Non, non, non. Ah non.
Et non.
Parce que l'embauche, c'est à quelle heure ?
je n'ai pas de d'horaire.
Alors pourquoi vous allez si vite ?
Parce que j'aime marcher.
À cette cadence ?
Voilà.
Il paraît qu'au bout de 3 heures de marche, ça, on sécrète une espèce d'hormone qui fait vraiment du bien pour le tout le corps.
Ça doit être ça.
Mais avec le cigare, c'est embêtant.
Non, mais c'est le matin, comme ça.
Café-cigare ?
Voilà.
Et dans cette petite mallette, qu'est-ce qu'il y a ?
Eh bien, mon boulot. Non, un livre.
Quel livre ?
Ah ah.
Cigare.
Vous connaissez Sylvain Tesson ? Sylvain Tesson.
Maison dans le sud.
Ah oui, j'adore Sylvain Tesson. C'est un marcheur, il traverse la France en marcheur.
Et ben voilà,
quand on vient au monde, le matin, on allume un cigare et puis quand.
Non, c'est le Bérézina.
Quand la nuit tombe sur nos vies, on a cette maison dans le sud. écoute les oiseaux, écoute la mer. Les
grands voyages, ils marchent que en France. Oui, oui.
Est-ce que c'est un poisson volant?
Oui, oui.
Des mouettes, des souvenirs, quand j'étais banquier dans le 17e arrondissement de Paris.
Ça, c'est la bonne.
Quand je fumais le cigare, tôt le matin, pendant que ma femme dormait attachée au lit. Et maintenant, le bonheur, c'est simple comme un pavillon dans le sud avec l'argent des autres.
On a ralenti un peu, toi.
Comme il y a des vagues en Méditerranée, c'est étrange.
Allez, parce que vous...
Aujourd'hui, les vagues étaient interprétées par Arnaud Aymar.
Bravo. Bonsoir. Bravo.
Les mouettes étaient de Atmen Khelif.
Bravo.
Le silence de Tito.
Bravo.
Et les costumes
d'Edouard Baer. Oh,
oh,
ben écoutez,
non, allez, sur une mise en onde d'Armelle, merci.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Attention, attention, attention. On suit notre affaire Marine Le Pen. Bon, Thomas, vous êtes revenu en studio. Oui. Vous avez un livre à la main. Je sens qu'il a été épluché, ce livre. Il a été souligné. C'est vrai. Des pages cornées.
Voilà.
Il a subi des traversées de métro.
C'est pas moi qui ai fait ça. Hein.
Il a été dans votre livre. Vous avez un petit peu bavé dessus en vous endormant.
C'est vrai. Oui.
Quel est ce livre?
Mais il m'a pas endormi. Non, ça s'appelle La politique malgré elle. Sous-titré La jeunesse cachée de Marine Le Pen, et c'est signé David Doucet et Mathieu Dejean, deux journalistes aux Arts Occultibles qui se trouvent être là dans le studio.
Ils sont là. Mais incroyable hasard. Vous avez livré, ils sont là. C'est tout le talent de cette émission.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Ce livre est sorti. Bah, il sort aujourd'hui, non?
C'est ça.
Il sort aujourd'hui et dans quelques jours, dimanche, c'est l'entrée en campagne de Marine Le Pen, apparemment.
Ouais, c'est le sens. On a le sens du timing.
Ouais.
Donc oui, c'est à l'occasion de cette entrée en campagne, on a voulu fouiller un petit peu sa jeunesse, enquêter dessus, donc on a rencontré une cinquantaine de personnes pour voir en fait et analyser la posture qu'elle prend aujourd'hui, c'est-à-dire de porte-parole des sans-voix, de finalement d'une femme qui aurait été programmée pour la politique. Mmh. Et ce qu'on raconte dans ce livre, c'est qu'elle a eu une éducation bourgeoise, qu'elle a longtemps cherché à fuir la politique et à fuir l'environnement de son père.
Alors ce qu'on comprend, et un des chapitres majeurs de ce livre-là, c'est ce qui se passe quand elle a quoi? Quand elle a 8 ans et que l'appartement de ses parents explose. Tout d'un coup, c'est ce moment-là, c'est ce que vous dites et c'est ce qu'on vous dit. La politique entre dans sa vie, elle a 8 ans, elle entre par une forme de violence. C'est un attentat,
c'est
Mathieu Dejean.
C'est vrai, c'est par une irruption violente que la politique entre dans sa vie et qu'elle elle dit prendre conscience que son père fait de la politique puisque leur appartement saute en 76. Elle a 8 ans et donc ils échappent de peu à la mort. C'est vrai que pendant toute sa vie, il y a des épisodes comme ça au tout début dans sa jeunesse où la politique est un peu glauque puisque c'est lié à la mort aussi de dirigeants politiques du FN comme François Duprat.
Qui meurt dans un attentat aussi.
Et Jean-Pierre Stirbois dans un accident de voiture, mais son père l'amène voir le corps pour pas que ce soit soi-disant le... Enfin, qu'elle ne voit pas lui...
Voilà, que ce ne soit pas lui le premier mort qu'elle voit, c'est ce qu'il lui dit. Et effectivement, il l'amène à la mort pour reconnaître le corps de Stirbois. Depuis qu'elle a 8 ans, la violence et la mort sont ainsi associées à la politique telle que l'aperçoit Marine Le Pen. C'est ce qui est écrit dans votre livre. Ce dont on se rend compte aussi, puisqu'on plonge quand même beaucoup dans les 70 et début des années 80, donc les années d'enfance, début d'adolescence de Marine Le Pen, c'est le rejet que suscite le Front National. Ça, elle le vit aussi. C'est quelque chose qu'on a un peu plus de mal à voir aujourd'hui, mais un vrai rejet social à l'époque où le FN est qualifié de groupuscule.
Durant longtemps, elle s'est construite comme ça, comme une... En défense et en protectrice de son père. On raconte que lorsqu'elle va au lycée, après l'enquête de Libération qui montre que Jean-Marie Le Pen a torturé en Algérie, elle insiste pour aller au lycée et puis elle arrive le poing levé pour dire « Voilà, moi j'assume, je vais défendre mon père jusqu'au bout ». Et durant toute son enfance, son adolescence et puis dans son début d'âge adulte, elle va être sur les traces de son père, être toujours le bouclier de son paternel. Mmh. Elle va même rentrer en politique un peu pour le défendre, parce qu'elle va avoir un rôle central lors de la scission où son numéro 2, Bruno Maigret, quitte le parti. Elle va éplucher les comptes de Bruno Maigret, elle va faire en sorte de relever tous les griefs possibles pour montrer qu'il y a des fautes et qu'effectivement, son père est dans son bon droit en voulant regarder le nom et le parti.
Comment est-ce qu'on arrive comme ça quand on est une fille de famille, d'une famille... bourgeoise, une dynastie politique, de faire croire qu'on est la candidate du peuple qui arriverait comme ça, qui sortirait de ce qu'on appelle le peuple, ce qu'elle appelle elle-même le peuple.
Bah ça, c'est son grand coup de force, quoi. C'est vrai qu'on montre qu'à partir de 76, ils vivent dans un manoir à Montretout dont elle a hérité par Lambert l'industriel et que toute sa vie, elle n'a jamais été proche des gens dont elle parle et dont elle prétend rendre la parole aujourd'hui. Donc,
elle n'est pas partie un moment faire ses classes de
après,
son côté
Non, non, du tout. Elle sait pas, la seule période où vraiment elle se confronte à des choses du réel, c'est quand elle est avocate et qu'elle s'inscrit volontairement à la 23e chambre pour faire les commissions d'office. Mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a jamais eu d'incursion comme ça. Après, finalement, elle est un peu dans la lignée aussi de son père, hein, qui était déjà un leader comme ça populiste. Elle a toujours été dans le mimétisme par rapport à lui. Même sa mère nous disait que pratiquement, même physiquement ou dans des mimiques, elle les confond. Et
mais le père était plus le candidat de la revanche, c'est-à-dire la contre-révolution, l'Algérie française, Vichy, c'est-à-dire toutes les contre-révolutions plutôt qu'un candidat populaire. Et puis il ne se prétendait pas ça. Il disait les Français, mais il disait pas les milieux populaires. C'est arrivé plus tard dans son national.
Il était candidat de droite nationale, mais et puis il évoluait avec des notables, notamment giscardiens. Mais effectivement, elle va avoir une opportunité politique dans les années 90, notamment 98, de se présenter en Nord-Pas-de-Calais, et elle va voir dans cette ère désindustrialisée, victime du chômage, une opportunité politique de tenir un discours social plus fort, plus protecteur. Et on voit qu'aujourd'hui, ce thème du souverainisme intégral, c'est-à-dire face à une peur identitaire, culturelle, économique, le discours du Front National arrive à proposer une offre politique qui désarçonne les autres, la classe politique française.
Mais d'ailleurs, en ça, elle va contre, effectivement, ce que vous disiez, Edouard, à l'instant, contre les certitudes de son propre père. Mais vous trouvez dans son enfance, son adolescence, dans ses années avant d'être membre même du Front National, les raisons d'aller contre son père, de le contrarier.
Bah disons que durant longtemps, elle ne souhaitait pas faire de la politique. On raconte qu'elle s'abreuvait de bibliothèque à l'eau de rose, qu'elle passait ses journées devant Albator, ce qui n'est pas un mal. Et
c'est une enfant. Enfin,
voilà, c'était quelqu'un qui
n'avait
pas
qu'un œil aussi, comme le père, très intéressant. Albator était borne comme Le Pen, je note.
Mais du coup, elle n'avait pas du tout la même culture politique, le même goût, en fait, la même appétence. Et finalement, elle va être forcée de suivre ses pas, mais possible parce qu'elle a eu énormément de flop professionnel et politique, et donc qui vont l'obliger en quelque sorte à suivre son père au Front National.
Vous avez dit que vous avez interrogé 40 personnes de son entourage. Comment on mène une enquête comme ça? On ment, on dit qu'on travaille, parce que vous avez travaillé pour un journal qui est classé à gauche, donc les gens y répondent en se méfiant, il y a des gens qui répondent dites pas que c'est moi, il y a des petites vengeances personnelles, comment est-ce qu'on arrive à faire parler 40 personnes comme ça si proches?
Alors dans les 50 personnes qu'on a interrogées, c'est sans doute vrai qu'il y en a certaines qui étaient plus faciles à convaincre du fait des relations en ce moment un peu conflictuelles entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Mais après, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont bien voulu nous parler. On ne disait pas forcément qu'on travaillait aux In Rock, journal plutôt que TikTok.
Alors là, vous avez votre t-shirt « J'aime le journal Minute » sur vous. Donc
c'est celui-là que j'utilisais justement pour les convaincre.
On arrive un peu masqué dans ces cas-là?
Mais Marine Le Pen, par exemple, a refusé. On lui a demandé à 5 ou 6 reprises. Elle a refusé ostensiblement de nous répondre en disant que de toute manière, on ferait un travail qui est à charge. Après, on a réussi à convaincre d'autres de parler. Mais c'est vrai que durant longtemps, elle nous a un peu bloqué les portes. Et du coup, ça nous a pris un an de faire ce travail parce qu'effectivement, quand on doit enquêter sans la première source, sans la personne qui a vécu les événements, c'est toujours plus difficile parce qu'on doit recouper les différents événements de sa vie.
Et une fois que vous avez la personne en face, il y a des techniques, vous la gardez des heures, comment vous arrivez? Vous avez des techniques quasiment de flic, good cop, bad cop, il y en a un qui est gentil, l'autre qui vous fait parler?
C'est une technique d'interview normale, quoi.
Non, on n'a pas eu.
C'est pas pareil l'interview bienveillante et l'interview de gens que vous n'aimez pas forcément. J'imagine que c'est pas exact.
Non, mais une mise à distance, quoi. De toute façon, c'est un sujet qu'on a décidé de traiter de manière objective, sans prendre parti ni faire un livre à charge. C'est pas du tout le but. Donc nous, c'est comme ça qu'on leur a présenté le projet. Les gens se sont livrés à nous sans...
Et d'ailleurs, c'est tellement pas à charge qu'à la fin, Thomas, vous m'avez dit « j'ai envie de voter Marine Le Pen ».
Non, mais il y a des moments, on se demande, c'est-à-dire que vous la dépeignez comme une fêtarde pour une partie du début de sa vie d'adulte, comme une nightclubeuse, ce qui apparaît plutôt sympathique d'ailleurs.
Disons que durant toute son ascension politique, on lui a reproché justement son côté fêtarde, aller au bain à douche, etc., en disant une nightclubeuse, c'était son surnom au sein du FN, ne peut pas aspirer préférait être dirigeant du Front National.
Et toute une frange du FN qui disait ça.
Donc on a enquêté là-dessus pour vérifier si effectivement elle était ou non la reine des planches de discothèque. Et il se trouve que durant quelques années, elle a été effectivement une habituée.
Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en tout cas, ça explique certaines choses dans sa trajectoire au FN et les relations qu'elle peut avoir avec certaines parties.
La question de la rupture, en fait, avec la ligne initiale du FN, c'est ça.
Ouais, ouais. Et puis avec toute une partie des catholiques traditionnalistes qui lui reprochaient justement ces soi-disant débordements à l'époque, qui la trouvaient pas sérieuse. Donc, voilà,
donc
ça
pour faire rempart à l'extrême droite, il faut voter Marine Le Pen.
Faut qu'on reprenne ça. On va en antenne, peut-être en attendant. Donc on peut parler. C'est le titre, La politique malgré elle. Et voilà, on en a parlé. La jeunesse cachée de Marine Le Pen. C'est signé David Doucet et Mathieu Dejean. C'est aux éditions Latengo, par ailleurs éditeur d'une très bonne revue politique qui s'appelle Charles. Il faut le souligner. On en parlera peut-être un de ces jours.
Messieurs, merci.
Merci à vous.
À bientôt. Ne vous inquiétez pas de ce que j'ai dit. Vous savez, c'est une émission qui mélange les genres. À bientôt.
7h, 9h, plus près de toi.
Eva, plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Je passe une matinée. Oh
Noël,
Dieu.
Tu veux pas te mettre là ? Jean-Noël Mistral est en place, qui est arrivé, notre poète maison. Jean-Noël, vous êtes arrivé comment ? Vous venez de loin ?
Oui, je viens du Midi, je viens de Provence. Je suis arrivé... je sais pas comment, je suis arrivé par le vent.
C'est la Provence du cœur plutôt que la Provence géographique, non ?
C'est la Provence du cœur, mais c'est aussi la Provence géographique.
Ah, pardon. D'accord.
Parce que ce qui est important, c'est d'être à la fois dans le cœur et à la fois dans la géographie. Et comme ça.
C'est ce que vous dites là dans votre livre.
Bien sûr.
Ce qui est important, c'est d'être à la fois
dans la géographie,
dans la géographie
et dans le cœur.
C'est écrit là. Voilà, je vous présente Maya. Bonjour
comme
Maya.
Tu es mignonne.
Maya, attention, ça va être... tiens, on lui met son petit jingle quand même.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Maman. T'es pas très âgée, Maya, t'as quel âge ?
7 ans.
Et 7 ans, c'est quelle classe ? C'était seconde ?
CE1.
CE1. Ensuite, si tout se passe bien, peut-être on passe en CE... CE2. Si tout se passe bien en CE2, très vite, on accède à la...
CM1.
Et alors là, ensuite...
CM2.
Et puis alors là, tous les espoirs sont permis, parce qu'après, on peut choisir le métier qu'on veut. Et toi, ça serait quoi, ton métier idéal ? Ton métier rêvé ? Tu te vois faire quoi ? Princesse ? Fée ? Président ? Cantonnier ? Jean-Noël, cantonnier. Tu n'as pas d'idée de métier encore ? Non ? Tu as un endroit où tu aimerais vivre ? Une ville ou une maison près de la mer ? Dans un bateau ? Tu ne sais pas trop ? Oui. Si ça te vient tout à l'heure, tu nous dirais, il faut dire que Jean-Noël, vous donnez des petits coups de pied à Maya, ce qui la déconcentre, peut-être par jalousie.
Pardon.
On écoute ton poème qui s'appelle Tour Eiffel ? On t'écoute.
Tour Eiffel, tantôt tu serais habité par un million d'oiseaux. Tantôt tu seras habillé de fleurs, de feuilles et de fruits. Tantôt tu quitteras Paris au beau milieu de la nuit pour partir seul à la mer. Peut-être aussi penserais-tu à inviter les pyramides au moins une fois l'an. Vous ririez bien ensemble d'ébahir les Parisiens qui ne croient jamais à rien, Alain de Broise.
Bravo! C'est superbe, c'est superbe. Tu es déjà monté sur la Tour Eiffel, toi ?
Oui, une fois.
Tu as aimé ?
Oui.
Tu as eu le vertige ?
Un peu.
Un petit peu. Jean-Noël, vous avez écouté ce poème Tour Eiffel, je vous ai senti touché.
J'étais touché en plein milieu de moi-même. J'ai l'impression d'avoir vu une sorte de pinson qui décollait d'un arbre.
Oui.
Et qui nous emmenait dans un ciel radieux et... On était chauffé par un soleil de scintillance.
C'est ce qui s'est passé. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous êtes arrivé avec vos...
J'étais froid.
Barricadé.
J'étais barricadé parce que je suis à Paris et je me méfie toujours des Parisiens. Et là, tout d'un coup, je me dis, waouh.
Oui.
En fait, c'est comme si j'ai l'impression d'avoir la voix qui chevrotte.
Ouais, c'est l'émotion. C'est l'émotion parce que vous êtes un peu cadenassé comme beaucoup de gens.
Je suis cadenassé comme beaucoup de gens.
Il y a un téléphone là. Non, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ?
J'ai l'impression que c'est un téléphone qui sonne quelque
dans
part.
Dans la poche d'Atmen, c'est dommage.
Voilà.
Ah, pardon.
C'est dommage que ça se passe comme
mais
ça.
C'est moi qui sabote.
C'est peut-être... Maya, est-ce que tu veux rester écouter le poème de Jean-Noël ? C'est gentil de ta part, parce que beaucoup auraient dit non à ta place.
Je vois Jean-Noël. Pas pourquoi vous dites ça.
Non, non, parce qu'il y a des gens qui ont parlé de Jean Cadenassé.
Je suis canonassé.
Vous voulez un peu de musique sur votre poème?
Sinon, il y a mon portable, si vous voulez.
Je veux bien. Un arbuste est né. Un arbuste est né. Je ne l'avais pas vu auparavant. Je m'étais levé de mon lit de bruyère, de plumes d'oies sauvages et de pelotes de déjection. L'aube pointée comme le sein d'une pêche. Tout doucement, tout voluptueusement, comme le régal aux oreilles d'une bécasse qui fait un câlin comme un panda. Des escargots aux cornes, vives comme l'élan d'une carpe, passèrent et partagèrent avec moi mon petit déjeuner de lettuce sauvage et de champignons de bocasse aux pieds en col. Et puis, tout à coup, je l'ai vu, le petit chêne. Il avait percé sous l'humus sa petite tige toute frêle. Tenait à ses deux, avec deux mains une petite feuille qui lui pendait au nez. Il était déjà grand de plus de 3 cm. Alors, je le regardais de mes sourcils broussailleux. J'ai dit, mais dis-moi, comme tu es bien grand, déjà.
C'est de toute beauté.
Merci. Tu viens de jaillir. Tu es la sève du monde. Je te félicite de vivre. Tiens, j'ai envie d'ouvrir une boîte de sardines pour fêter ça. Alors, tous les quatre, avec le désescargot, on a mangé des sardines. Quand tout à coup, l'escargot, un des escargots, m'a touché avec sa corne. Ah, oui. Il m'a dit, chut, il dort. Alors, on l'a regardé dormir et j'ai revers une boîte de sardines.
Et voilà. Et Jean-Noël, ça pourrait durer des heures tellement c'est beau, bien sûr.
C'est pas trop la beauté qui compte, je trouve, parce que c'est superficiel, la beauté.
Non, je parle de beauté intérieure, la beauté des
beau, c'est le voyage.
Mais ce que j'ai trouvé, c'est que on sent que c'est basé sur des expériences vécues.
J'aime vivre, donc au bout d'un moment, bien sûr, je collectionne des souvenirs de ma
boîte. Je sais qu'au village, beaucoup d'enfants vous jettent des cailloux.
Pas que les enfants, le boulanger, le charcutier, Maya, le joaillier.
Tu as apprécié le poème de Jean-Noël?
Oui,
pourquoi tu l'as aimé, ma chérie?
Je sais pas.
Et on ne sait pas.
On ne sait pas pourquoi.
Et le mystère fait partie du poème. Merci Jean-Noël, merci Maya.
Merci
les
Maya.
Informations maintenant.
Radio Nova.
Un trouble énorme chez les Français, un chaos sans précédent, ce sont les propos de François Bayrou, le président du Modem, qui affirme ne pas avoir pris sa décision à propos de la présidentielle, en précisant qu'il fera tout pour que la France s'en sorte. Les propos de François Bayrou font évidemment écho à l'affaire Fillon, une affaire qui prend de l'ampleur. Selon le Canard enchaîné du jour, les sommes perçues par l'épouse de François Fillon au titre d'attaché parlementaire présumé, ainsi qu'à la Revue des Deux Mondes, s'élèveraient non plus à 500 000, mais à 900 000 euros bruts. On a appris en outre que Pénélope Fillon ne disposait pas de badge pour pouvoir entrer à l'Assemblée nationale, ni d'adresse mail personnelle à ce titre. Et on a surtout appris que le couple Fillon aurait aussi embauché ses deux enfants comme attachés parlementaires au Sénat, cette fois pour 84 000 euros à temps plein alors qu'ils étaient encore étudiants. 298 497,47 €, c'est précisément, il y a beaucoup d'argent dans les infos ce matin, c'est précisément la somme que Marine Le Pen devait rembourser avant minuit hier soir aux parlementaires européens pour avoir rémunéré deux assistants parlementaires qui travaillaient en réalité au siège du FN. La candidate du FN a fait savoir hier dans la journée qu'elle n'entendait pas rembourser cette somme. Je ne sais pas si elle l'a fait du coup. Le Parlement européen a fait lui savoir qu'en cas de non-paiement, Marine Le Pen pourrait se voir retirer la moitié de son salaire et de ses indemnités journalières, ainsi que la totalité de ses frais généraux.
Non mais c'est bon, je l'ai eu. Elle s'est réglée.
Bon, oui, c'est réglé, d'accord. Peut-on parler d'un début d'hémorragie au PS? Dans une tribune au Monde, des députés PS évoquent un droit de retrait. Après la victoire de Benoît Hamon lors de la primaire, les députés Christophe Caresch et Gilles Savary, notamment représentant l'aile droite du PS, estiment que les conditions de soutien à Benoît Hamon ne sont pas réunis. Le suspense est terminé. Donald Trump a annoncé hier soir la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch, 49 ans, au 9e étage vacant de la Cour suprême des États-Unis. C'est un ultra-conservateur qui milite aussi contre l'avortement. Le Massachusetts, New York et la Virginie ont rejoint la bataille juridique enclenchée par l'État de Washington, qui a annoncé qu'il allait saisir la justice fédérale pour tenter d'obtenir l'invalidation du décret anti-immigration. L'Algérie s'est enfin débarrassée des mines de la guerre. 8 854 849 c'est précisément le nombre de mines qui ont été détruites par l'armée algérienne depuis l'indépendance du pays. Faut-il aménager ou non la loi littorale ? Après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui en débattait hier. Plusieurs élus de l'opposition souhaitent faciliter la construction de bâtiments sur certaines zones côtières pour promouvoir l'activité économique. Une pétition circule sur Internet, elle s'intitule « Ne touchez pas à la loi littorale ». Elle a déjà été signée par 150 000 personnes. La Société du Grand Paris a attribué à un groupement d'entreprises piloté par Bouygues Travaux Publics un contrat de 968 millions d'euros pour des travaux de génie civil de la ligne 15 sud du futur métro Grand Paris Express. 66 millions d'euros, c'est la somme dépensée par le PSG cet hiver. Le mercato a pris fin à minuit hier soir. Jamais le club de la capitale n'avait dépensé autant en hiver. Le début des 16e de finale de la Coupe de France de football hier soir. Marseille a battu Lyon 2-1. Et donc Marseille se qualifie pour les 8e. Qualification également de Bordeaux face à Dijon. De Bergerac, c'est la surprise, qui a battu Lens 2-0. Nantes est éliminée, battue par Lille 1-0. Suite des rencontres ce soir, Rennes va recevoir le PSG, Auxerre va recevoir Saint-Etienne, Angers va recevoir Caen et Chambly va recevoir Monaco notamment. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations, les demi-finales, coup d'envoi ce soir avec le Burkina Faso contre l'Égypte. Demain, ce sera le Cameroun qui sera affronté, qui rencontrera le Ghana.
Les gens apprécient beaucoup, depuis que vous parlez de foot, en termes d'invitation, de réception, c'est plutôt qu'en termes de combat. Les gens,
c'est vrai.
J'ai beaucoup, beaucoup de courriers. J'ai eu une lettre avant-hier. Atmen, on va être avec Jacques souvent. Vous allez éteindre votre portable ou pas ?
Mais je vais essayer, je suis désolé. J'essaie de saborder l'émission, je n'y arrive pas. Ah, si.
Et alors, vous avez fini de travailler à 1h du matin ?
Non, du tout.
Vous avez dit que vous êtes là depuis 1h du matin ?
Je suis là depuis 1h du matin.
Qu'est-ce que vous faites ?
Moi ? Je fais chier le monde et je montre qu'on est là. Honnêtement, je veux juste que les gens, globalement, ils voient qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout contents de leur système. Et, juste que des fois, il y a une personne qui va tenter de se rebeller. Même si elle a l'air con au milieu de la rue, elle est au milieu du rond-point, au milieu du feu vert, qu'elle est fatiguée, qu'elle n'en veut plus. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous vous mettez au milieu des voitures à quel moment ? Maintenant, au milieu des feux verts, je bloque la circulation et pendant 2-3 secondes, je vais vraiment faire chier un maximum le monde, mais légalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me faire chier, un policier ne peut pas venir me demander de sortir, parce que le feu est vert. Et ça, je kiffe. Mais bon... Je suis passé tout le temps, j'ai pas le temps. Mais si je pouvais, je le ferais vraiment à plein temps. Par contre, c'est rouge. Et quand c'est rouge, il faut qu'on revienne sur le trottoir. C'est ça. Vous faites ça depuis combien de temps, là ? Je sais pas, j'ai fini du travail, il était 1h du matin. C'est ça. Là, je commence à avoir un petit souffle, j'avoue.
Il y a des gens qui descendent de leur voiture, qui veulent vous casser la gueule, qui viennent parler ?
Non, il y a les taxis qui commencent à klaxonner un petit peu, mais c'est les taxis à Paris, on a l'habitude.
Vous aimeriez quoi ? Qu'il y ait une conversation qui commence, vous faire écraser ? Qu'est-ce que vous aimeriez ?
Franchement, une conversation, ce serait top. Converser à Paris, ce serait génial. C'est un truc qui est vraiment très très rare à Paris, c'est vert.
Genre qu'il y a un mec qui il braque la voiture devant vous, il s'arrête, il sort...
Et qui commence à bloquer, dire « Putain, mais pourquoi t'es au milieu de la rue ? Pourquoi tu fais chier comme ça tout le monde ?» Et lui expliquer le truc et dire « Ah ouais, je comprends le truc. » C'est pas une conversation, c'est se faire engueuler. « Ah mais carrément, mais qu'on m'engueule, il n'y a pas de souci. » Moi, je suis prêt à me faire engueuler, prêt à écouter les gens. Là, il y a un gros poids lourd qui arrive vers nous.
Ouais.
Tant que c'est vers le poids lourd... Personnellement, je suis plus fort que lui. Le problème, c'est que là, c'est... Eh ben, il faut aller sur le trottoir.
Il faut aller sur le trottoir.
Mais tu as envie de... Je comprends pas trop, moi. Personnellement, ça sert à rien de lutter violemment. Tu peux lutter contre quoi ? Personnellement, contre le fait qu'on paye un salaire absolument. Enfin, personnellement, je paye 10 mètres carrés, 700 euros. Et encore, j'ai de la chance, j'ai du travail. Il y a des personnes que je vois tous les jours au même endroit qui n'ont même pas de quoi se chauffer, qui vivent dans la rue en permanence.
Comment vous appelez ?
Personnellement, là actuellement, à l'heure où je vous parle, dans mon là où je vis, à l'étage où je vis, je dirais qu'il y a... On est 3 à l'étage. Je dois passer devant 10 portes. 10 portes vides. je dois passer devant 15 personnes qui n'ont pas de logement. Il y a un petit truc qui déconne, non?
Ouais. Vous bossez dans quoi?
Après, je m'en fous de combien ils payent les gens.
Vous n'en avez pas?
Alors, peut-être pas à gauche. Vous bossez dans quoi? Moi, je bosse dans le plaisir. Je bosse dans quelque chose qui est complètement en contradiction avec mes idées. Mais c'est le travail. On a besoin de vivre. C'est ce qui me fait plaisir. Mais...
Mais te fais pas écraser.
Ouais, j'essaie de pas me faire écraser.
Salut. Un corps seul contre la mécanique. Pour arrêter la mécanique du monde, c'est l'an zéro. On s'arrête. On arrête la bagnole, on sort, on discute. On remet en question des choses qui ont l'air acceptées par le monde entier, qui pourtant marchent sur la tête, comme on dit. Te fais pas écraser, mon vieux. Salut.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
2 heures d'émission, mais c'est beaucoup trop court.
Qu'est-ce qui s'est passé, Marie Missé, ce matin?
Par rapport...
En général, c'est...
Les deux croissants que j'ai mangés?
Non, je voulais... Dans le monde. Le monde, est-ce que...
J'étais très heureuse d'apprendre qu'Abraham Poincheval, vous voyez qui c'est? C'est un performateur qui avait vécu 15 jours dans un ours au musée de la chasse.
Non,
qu'est-ce qu'il fait? Cette fois, il est en train de couver... Il a couvé des œufs. Il va couver des œufs.
Ça, ce sont des performances artistiques, mais oui. Ça n'est pas votre
Non, j'en parle pas dans ma revue de presse, mais quand
elle
faire,
va commencer, allez vite vous installer.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Ah oui, je dois l'admettre, tout à l'heure, je vous ai un peu agacé, j'ai eu envie de commencer l'émission par cette histoire de la famille Le Pen, et je vais y retourner. Je vais y retourner parce qu'à 5h du matin, cette histoire dans Le Parisien m'a fait rire. Armel le sait, j'ai plutôt la larme facile le matin, et quand je ris, je dis merci. C'est donc Le Parisien qui fait une double page sur un livre, Dans l'enfer de Montretout. C'est Olivier Beaumont qui a écrit ce livre sur le manoir familial Le Pen à Montretout, et c'est rigolo parce qu'à Montretout, bah, on y vit plutôt caché. Entre réunions secrètes et embrouilles familiales. Marie-Caroline Le Pen, la fille aînée, Le Pen, exclue du clan, le dit à propos de son père. La bagarre a toujours été son moteur, c'est pour ça qu'il vieillit si bien. C'est psychologique, la guerre, la politique n'a rien à voir là-dedans. Mon père aurait eu une usine de chaussettes dans le Nord, que tout cela se serait terminé de la même façon. Alors est-ce que son père aurait eu une séparation aussi brutale avec Pierrette s'il avait eu une usine de chaussettes? Qui sait? Une rupture donc qui s'est soldée, on l'a dit tout à l'heure, par un échange à l'orée d'un bois entre l'œil de verre de Jean-Marie Le Pen subtilisé par Pierrette et l'urne funéraire de la mère de celle-ci utilisée donc par Jean-Marie comme monnaie d'échange pour récupérer l'œil manquant. Voilà qui a dû donner de beaux outils pour la gestion de conflits chez les enfants
Cher,
Le Pen.
Parce que c'est sur mesure les yeux en verre, je crois.
Oui, j'imagine qu'on ne peut pas en trouver.
Et les urnes aussi.
Oui, les cendres d'un parent mort, c'est aussi assez cher, oui.
Ça n'a pas de prix.
Donc on imagine que les enfants Le Pen en ont tiré beaucoup d'enseignements pour leur future gestion de conflits et de bagarres. Le Monde consacre justement un bel article à des programmes éducatifs très développés dans les pays anglo-saxons et qui sont encore un peu suspects dans l'Hexagone, mais qui arrivent doucement. Ce sont des programmes pour améliorer les compétences psychosociales des enfants. En bref, des programmes pour faire des petits êtres sociaux parfaits qui ont de la compassion, peuvent défendre et comprendre l'opinion d'autrui, résister à la pression de leur père et donc aussi régler des situations difficiles et résoudre des conflits. On y apprend que ces compétences donnent plus de possibilités à l'enfant pour plus tard que son QI. Mais en France, on est encore un peu rétif à ces pratiques. Le professeur et psychiatre Bruno Falissard estime que ces outils sont très intéressants et de qualité, mais qu'on peut aussi s'interroger sur le côté. On lisse les comportements, on les normalise un petit peu. Un autre exemple d'éducation est à trouver lui aussi dans le supplément Science du Monde, où on découvre que les fourmis sont des génies de l'orientation. En quoi ça concerne l'éducation, je vais vous le dire tout de suite. Parce que la Patrachénica longicornis, la fourmi folle par exemple, eh bien elle a certes des mouvements erratiques, mais ces mouvements lui permettent de retrouver toujours son chemin. Des chercheurs ont découvert que pour s'orienter, les fourmis utilisent de la coordination, de la coopération, mais surtout du hasard. Et le hasard est ici la clé. Thibaut Monin, chercheur au CNRS, trouve ça lui aussi logique et il fait le parallèle qui nous intéresse. Vous n'éduquez pas un enfant en programmant toute sa vie car vous risquez la catastrophe. Au moindre pas de côté, il faut accepter plutôt l'incertitude. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai aujourd'hui où les incertitudes pavent les pavés des jeunes. En témoigne le dossier sur les enfants boomerang dans la Croix aujourd'hui. Des enfants qui s'en vont et reviennent chez leurs parents, qui utilisent leur famille comme socle. Un socle qui peut être agaçant parfois mais qui reste rassurant, c'est dans la Croix. Un autre exemple très beau d'enfant qui n'a pas suivi le programme dicté par ses parents mais a fini par trouver un chemin que son père avait tracé peut-être malgré lui, c'est celui d'Eri de Luca. Militant, alpiniste, écrivain, révolutionnaire italien, dans une très longue et tout à fait passionnante interview publiée dans l'Entretien, revue dont je vous ai parlé hier également, Eri de Luca explique que longtemps ouvrier, l'écriture et la lecture sont pour lui du temps arraché à la gueule du lion. Il nous raconte qu'en tant qu'ouvrier, il a détruit le stade de foot de Colombes que son père adorait. J'étais en train de démolir matériellement un des rêves de mon père avec un marteau-piqueur en plus, dit-il. On se dit que ça commence mal, que la métaphore est violente. Et d'ailleurs, il raconte aussi qu'il a rompu très violemment avec son père, qu'il a détruit le futur que son paternel avait rêvé, organisé, mis en place pour lui. Et il dit « Finalement, je m'aperçois que j'ai quand même fait mien ses désirs. Il aimait lire, il écrivait. Je suis devenu quelqu'un qui écrit et publie des livres. Il aimait la montagne. Je suis devenu quelqu'un qui gravit les montagnes. Il s'est beaucoup repenti de n'avoir rien fait contre le fascisme en Italie. Et je suis devenu un révolutionnaire très antifasciste. Comme quoi, Eri de Luca a suivi un chemin comme une fourmi folle. » C'est un très bel entretien de 80 pages environ à lire dans l'Entretien.
Mais il faudrait être comme des fourmis.
Oui, se retrouver son chemin, faire confiance au hasard.
Mais ils appellent à des vies très individuelles, les fourmis, quand même.
On fait ce qu'on veut.
Atmen, vos parents, vous vous êtes construit dans le sens de vos parents
Moi, j'étais un enfant frisbee, pas boomerang. J'allais de mon père à ma mère.
Oui.
Il me jetait. Alors ma mère me mettait des pantalons.
Et des robes.
C'était difficile à l'école parce que j'avais deux prénoms. L'un c'était Atmen et l'autre c'était Atmina.
Comment vous avez réconcilié ces deux parties de vous-même en les mariant?
Ça ne s'est pas réconcilié. Bien sûr. Ça se voit, non?
Oui. Quant à vous, Tito, est-ce que vous avez suivi le chemin de vos parents ou est-ce que vous vous êtes fabriqué contre ou indépendamment?
Non, moi j'étais un caïd.
Petite frappe. Hein.
Ah, ça y allait sec.
C'était quoi, la soupe au marron, la mandale?
Bon, c'était ouais, un peu ça, ouais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Ah bon?
Ouais, c'est comme ça qu'on devient un homme.
La castagne, parce que vous êtes du sud-ouest, là, même les mémés aiment la castagne.
C'est ce que disait
Nougaro.
Moi, je suis un enfant boomerang.
Mais
j'ai l'impression que personne ne veut jamais vraiment m'écouter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un enfant boomerang, c'est dérangeant et on n'aime pas, en général, ce genre d'interview.
Merci pour ces témoignages.
On va
tout de suite, dans 3 minutes, quelques minutes, on appelle le rédacteur en chef du Canard Enchaîné. Merci. Tous les mercredis, le Canard Enchaîné débarque. C'est un des rares journaux papier qu'on continue à voir fleurir comme ça aux mains des passagers, des trains, des métros, des bus, dans la rue, dans les bureaux. Il y a l'équipe et le Canard Enchaîné qui continue, Philippe Sprang, finalement, dans la presse papier.
Voilà, très bien, il résiste plutôt pas mal. Et la semaine dernière, grosse révélation. Concernant Pénélope Fillon.
C'est le Canard à nouveau qui a lancé ça, qui a lancé ce qu'on appelle maintenant l'affaire Fillon. Alors c'est comme une sorte de fil d'Ariane, c'est parti tout petit, on a dit tiens, il semble que Fillon fait travailler sa femme pour sans qu'elle travaille trop.
Voilà, c'est ce qu'il révèle la semaine dernière, que celle qu'on pensait être une femme au foyer, en fin de compte avait une activité d'assistante parlementaire et que pour cela, elle avait perçu près de 500 000 euros. Et là, cette semaine, alors, 500 000, pour une activité qui est mise un petit peu en doute, puisque beaucoup de témoins disent « Ben non, on ne l'a pas vu ». Et donc là, cette semaine, le Canard Enchaîné en remet une couche et dit « Ben, ce n'est pas 500 000 euros, c'est un peu plus ». Et donc, ben, il faut poser la question maintenant à Louis-Marie Hérault, donc le rédacteur en chef du Canard Enchaîné, pour nous dire un petit peu ce qui ramène cette semaine en plus concernant le dossier et la Pénélope Guette.
Bonjour Louis-Marie Hérault.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau cette semaine dans c'est ce qu'on appelle maintenant l'affaire Pénélope Fillon?
Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'on a continué à travailler, qu'on a poursuivi l'enquête et qu'on a, on a trouvé de nouvelles choses. La principale nouveauté dans cette affaire, c'est le fait que non seulement Madame Fillon était rétribuée par l'argent de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour un travail dont on ne connaît pas bien les contours, on a découvert que les enfants également étaient bien payés. Monsieur Fillon avait d'ailleurs fait une allusion à ça lorsqu'il s'est défendu devant les caméras de TF1. Il avait dit « Oui, il m'est arrivé de donner des missions ponctuelles à mes enfants et de les rétribuer avec l'argent du Sénat ». Alors on a creusé et on s'est aperçu en réalité que, en fait, mission ponctuelle, la fille avait d'abord été employée pendant 18 mois, un emploi à plein temps pour une somme d'environ 3 700, 3 800 euros, si je me souviens bien. Et tout ça parce que, dit Monsieur Fillon, elle était avocate. Sauf que non, elle n'était pas encore avocate à ce moment-là. Alors c'est un peu bizarre. D'ailleurs, le fils ensuite s'est installé dans le même emploi. Il a été rétribué lui un peu plus, d'ailleurs plus de 4 000 euros, sans doute parce que c'est un homme. Il faut quand même être un peu misogyne, même dans la famille Fillon. Bref, il a été salarié pendant 6 mois, toujours avec l'argent du Sénat et toujours pour une mission dont on ne connaît pas très bien les contours. Moi, ce qui m'étonne un peu, si vous voulez, après tout, le sénateur Fillon, à l'époque, peut très bien avoir besoin de conseils juridiques, pourquoi pas. Il y a 30 000 avocats à Paris, c'est bizarre qu'ils choisissent justement ceux-là, ceux qui portent son nom et qui sont des étudiants, certes sûrement méritants, mais bon, dont les compétences ne sont pas forcément les meilleures possibles. Voilà.
Alors c'est ce qu'il y a en une hein, du canard, l'addition flambe, 330 000 euros de mieux pour Pénélope, 84 000 euros pour les enfants. Louis-Marie Auro, je vais faire un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est vraiment si grave ou est-ce que c'est vraiment de l'enrichissement personnel, c'est un peu unique aujourd'hui dans notre République, ou est-ce que ce sont des petits arrangements qui sont devenus un peu habituels dans la classe politique?
Écoutez, grave ou pas grave, c'est pas à moi d'en juger. Chacun décidera. Le problème, c'est que c'est de l'argent public qui est destiné à quoi? Qui est destiné à ce que le mandat du parlementaire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, se passe le mieux possible, qu'il ait les moyens de faire son travail. Bon, eh bien, est-ce que le fait de rétribuer Madame Fillon, qui est la pire accusatrice dans cette affaire, puisqu'elle dit depuis des années qu'elle ne travaille pas, qu'elle s'occupe de son foyer et qu'elle ne s'occupe pas des affaires de son mari. On s'aperçoit que pour ne pas s'occuper des affaires de son mari, elle a touché plus de 800 000 euros, ça fait quand même 900 000, même ça fait quand même beaucoup pour ne pas s'en occuper. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Ce qui est sûr, c'est que l'argent qui était ainsi... l'argent public qui était ainsi alloué à Madame Fillon ou aux enfants, il est tombé dans quoi? Et bien dans les comptes de la famille Fillon. Voilà. Alors après, c'est à chacun de juger s'il trouve ça grave ou pas.
Et vous dites, Louis-Marie, l'addition flambe, 330 000 euros de mieux pour Pénélope Fillon, c'est-à-dire que vous avez retrouvé des années d'activité de Pénélope Fillon.
On a refait l'addition parce que M. Fillon a donné une fausse date quand il se défend toujours devant TF1. Il dit, oui, en 97, j'ai un assistant parlementaire qui m'a quitté et je l'ai remplacé par mon épouse. Non, c'est pas vrai. Elle travaillait déjà depuis 88 comme assistante parlementaire. Alors, encore un petit mensonge pour essayer de minimiser. Nous, on a continué à travailler et à enquêter cette semaine. On s'est aperçu qu'il y avait une période dont on savait qu'elle était sans doute rétribuée, mais on n'avait pas les chiffres, on n'avait pas les montants. Et donc, on s'était abstenu de comptabiliser ça dans notre précédent numéro.
Louis-Marie, excusez-moi, j'ai la pub qui part automatiquement maintenant. Ne quittez pas, on vous reprend juste après. Je comprends rien.
7h à 9h, près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il fait une chaleur dans cette émission.
Alors, c'est très étrange d'être interrompu par la pub. Pardon, Louis-Marie Auro, ça part tout seul. Je comprends rien, système. On est avec Louis-Marie Auro, le rédacteur en chef du Canard Enchaîné. Nous parlions il y a quelques minutes de l'affaire Pénélope Fillon.
Oui, et il y a une petite musique qui dit bah, attendez, les canards, ils sont gentils, mais ils avaient déjà toutes ces infos la semaine dernière. Ils feuilletonnent, blablabla. Vous répondez quoi? Allô, Louis-Marie? Allô? Ah, on a perdu Louis-Marie.
On a eu la pub, on a perdu le Canard Enchaîné.
Oh là là.
On est un tout petit peu au bout du rouleau. Je vois toute ma vie défiler.
Allô, Louis-Marie?
Oui.
Oui, vous avez entendu ma question?
Non, pas du tout.
Non, c'est-à-dire qu'il y a une petite musique maintenant qui se fait entendre, qui dit « Mais finalement, toutes ces informations, ils les avaient la semaine dernière, ils ne les ont pas publiées, ils veulent feuilletonner les coquins. » Vous répondez oui. quoi
eh ben, je réponds que on a travaillé toute la semaine et que si on avait eu les chiffres globaux de la semaine dernière, on les aurait donnés. Et que si on avait eu les informations qu'on va essayer de sortir le mois prochain, on les aurait sorties maintenant. Vous savez, il faut juste réfléchir une seconde. Il y a des dizaines et des dizaines de journalistes qui travaillent maintenant sur cette affaire. Si on a une info, on n'imagine pas qu'on va la garder tranquillement pendant je ne sais combien de temps. Quand on a une info, qu'elle est vérifiée, qu'elle est sûre, on la sort, point final.
Vous n'avez pas un petit secret que vous gardez pour la semaine prochaine, une nouvelle révélation que vous pourriez nous dire juste à nous?
Mais malheureusement, non. Si, je vous assure que si je l'avais, d'abord, je la garderais pour le canard. Et la semaine commence pour nous et on va continuer à travailler. Quand on va à la pêche, on ne sait pas ce qu'on va rapporter.
Alors, ça fait des années qu'on vous pose ces questions, mais il y a quoi? Il y a des appels anonymes, il y a des rendez-vous secrets. Ça me fascine, moi, la vie des journalistes du canard.
Non. Ça arrive. Mais en l'occurrence, c'est simplement du travail. Il y a trois journalistes. Hervé Liffrand, Christophe Nadini et Isabelle Barré, qui ont travaillé pendant 3-4 semaines à partir des éléments dont on disposait sur le patrimoine et les revenus de la famille Fillon. On a tout appluché, on a repéré des contradictions, on a tiré la bout de la ficelle et toute la plotte est venue. Voilà. C'est uniquement du travail. Alors, bon, je sais bien, il y a le fantasme, on s'imagine qu'il y a
des fausses moustaches,
un corbeau qui arrive et qui nous amène une enveloppe bien rebondie où on n'a plus qu'à recopier. C'est un pur fantasme.
Des rendez-vous sur les quais la nuit avec un masque. Oui, ça, non, oui, d'accord. Oui. Bon.
Merci Louis-Marie Auron. Et puis, on va se précipiter aujourd'hui merci. Sur la lecture du Canard Enchaîné.
Merci.
Merci. Au revoir.
Radio Nova. Qu'est-ce que c'est que cette tradition du journal de 8h35? Qui a lancé ça? C'est une idée à vous, Thierry Paret?
Non, c'était très intéressant, donc du coup ça vaut le coup quand même.
Absolument, ouais. Merci.
Un trouble énorme chez les Français, un chaos sans précédent, ce sont les propos de François Bayrou, président du Modem, donc qui affirme ne pas avoir pris sa décision à propos de la présidentielle en précisant qu'il fera tout pour que la France s'en sorte. Les propos de François Bayrou font évidemment écho à l'affaire Fillon, alors on en a beaucoup parlé, mais bon quand même. Le candidat de la droite n'a toujours pas apporté la preuve du travail de son épouse en tant qu'attaché parlementaire. Selon le Canard Enchaîné du jour, les sommes perçues par l'épouse de François Fillon au titre donc d'attaché parlementaire présumé ainsi qu'à la Revue des Deux Mondes s'élèveraient non plus à 500 000 mais 900 000 euros bruts. On a surtout appris que François Fillon aurait aussi embauché ses deux enfants comme attaché parlementaire au Sénat, cette fois pour 84 000 euros à temps plein, alors qu'ils étaient encore étudiants. On avoisine donc en tout le million. Et la famille Fillon n'est peut-être pas au bout de ses peines. Selon Mediapart, une fondation aurait salarié une membre de l'équipe de campagne de François Fillon, sans qu'aucune trace de son travail ne puisse être constatée. Il s'agit de la fondation du milliardaire Marc Ledred de Lacharrière, patron de la revue des Deux Mondes. 298 497 euros, 47 centimes, c'est précisément la somme que Marine Le Pen devait rembourser avant minuit hier soir aux parlementaires européens pour avoir rémunéré deux assistants parlementaires qui en réalité travaillaient au siège du FN. La candidate du Front National a fait savoir hier dans la journée qu'elle n'entendait pas rembourser cette somme. Dans une tribune au Monde, des députés PS évoquent un droit de retrait après la victoire de Benoît Hamon lors de la primaire. Ils estiment que les conditions de soutien à Benoît Hamon ne sont pas réunies. Donald Trump annonce la nomination du juge conservateur et anti-avortement Neil Gorsuch, 49 ans, au 9e étage vacant, 9e siège vacant de la Cour suprême des États-Unis. Le Massachusetts, New York et la Virginie ont rejoint la bataille juridique enclenchée par l'État de Washington qui a annoncé qu'il allait saisir la justice fédérale pour tenter d'obtenir l'invalidation du décret anti-immigration. Israël annonce la construction de 3000 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, quatrième annonce du genre en moins de deux semaines. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 72 ans, annonce qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle en Corée du Sud. On l'évoquait. L'Algérie s'est enfin débarrassée des mines de la guerre, 8 854 849, c'est précisément le nombre de mines qui a été détruite par l'armée algérienne depuis l'indépendance du pays. Faut-il aménager ou non la loi littorale? Après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui en débattait hier. Plusieurs élus de l'opposition souhaitent faciliter la construction de bâtiments sur certaines zones côtières pour promouvoir l'activité économique. Une pétition circule sur Internet. Ne touchez pas à la loi littorale, c'est son nom. Elle a déjà été signée par 150 000 personnes. La Société du Grand Paris a attribué à un groupement d'entreprises piloté par Bouygues Travaux Publics un contrat de 968 millions d'euros pour des travaux de génie civil de la ligne 15 sud du futur métro Grand Paris Express. 66 millions d'euros, beaucoup d'argent hein, dans les infos ce matin. C'est la somme dépensée par le PSG cet hiver. Le mercato a pris fin à minuit hier soir. Jamais le club de la capitale n'avait dépensé autant en hiver. Le début des 16e de finale de la Coupe de France de football hier soir. Deux résultats. Marseille a battu Lyon 2-1 et puis surtout Bergerac a battu Lens 2-0. Suite des rencontres ce soir avec notamment Rennes qui reçoit le Paris Saint-Germain ou Auxerre qui va recevoir Saint-Etienne. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations. Le début des demi-finales aujourd'hui avec le Burkina Faso contre l'Égypte. Demain, le Cameroun sera opposé au Ghana.
Nova. Des titres, ça, tu réparais ?
Nova.
Vous m'avez fait titres. Un petit journal en loose.
Ah, c'est à cause de Fillon. Ça.
Allez, gros béco.
Ton cuir rond comme une horloge, et quand ma fatigue s'y loge, j'enfile le temps à rebours. Je mate l'heure sous ta jupe, il est midi moins deux minutes, et je suis encore à la bourre. Promis demain, j'arriverai pile pour faufiler ma grande aiguille.
Non, là, moi j'aime beaucoup Alain Lepresse, mais là il est 8h40, on est en train de faire de la gym chez soi. Je ne peux pas, je ne peux pas laisser Alain s'exprimer à cette heure-là. Donc qu'est-ce qu'on fait, Armel?
On met un autre morceau dans ces cas-là.
Oui, je crois qu'il faut le faire, on s'excuse, ça allait être un très beau morceau, mais là il me faut un tout petit peu d'énergie, c'est le moment de la gym. Oui, je ne comprends pas. Donc, vous allez me remettre de la pub, là.
Écoutez, Edouard, oui.
J'avais interrompu le tube du canard enchaîné. Alors, je vais voir si elles valent le coup. Montrez-moi ces pubs.
D'accord, on les écoute.
Montrez-les-moi. Restez avec moi, on va voir si ça vaut.
7h09, plus près de toi. Plus près de toi.
Non, pas nananana, plus près de toi. Alors, je suis désolé. Chers auditeurs, je n'en peux plus, là. Ça fait... Là, il y a trois voitures. On va être obligé de prendre les grands moyens.
Calme.
On va prendre les grands moyens. On va être obligé de hacker. On va envoyer la pub sur d'autres radios. Armel,
oui.
Je vais prendre la pub, je vais l'envoyer sur... Tiens, je vais prendre Eczéma. Eczéma 34, il y a Eczéma qui est là. Eczéma, je rappelle qu'il est notre hacker. Grâce à lui, on était entré sur France Inter en direct. Eczéma, allez me bidouiller un truc. On prend la pub, on va s'en débarrasser sur d'autres radios. Et s'il me fait râler n'importe où, on ne peut pas aujourd'hui, nous, petite radio qui cherchons à faire passer des messages, de la gaieté, de la vie, de la proximité, nous ne pouvons pas continuer à vendre des voitures. Dès que vous êtes en direct d'une radio, vous me le dites... Eczéma 34, est-ce qu'il faut se masquer aussi ou pas?
Vous avez une différence?
Pardon? Non, allez-y. Là, vous pouvez. Est-ce qu'on peut y aller à visage découvert ou pas?
Ah, bah non, surtout pas.
Alors, s'il vous plaît, on se masque. Tout le monde est masqué dans le studio. Donnez-moi quelque chose. Allez, donnez-moi un truc là. Ok.
J'ai un sac.
On est où? Vous me dites dès qu'on est sur une radio. Ok, planquez-vous parce qu'il ne faut pas être repéré. On est où? Oh, allô?
C'est quoi? C'est Virgin ça?
Allô? Attends, on va voir. On est pendant un disque...
Allô?
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 Il y a quelqu'un?
Oui, on est... Allô?
Oui, je vous entends.
Bonjour, on est une petite radio. On voudrait avoir accès à votre antenne pendant quelques instants, c'est possible ou pas?
Comment vous avez réussi à arriver sur Virgin?
On est sur Virgin, là?
Ouais, et vous êtes qui?
Mon nom n'a pas d'importance, je représente simplement des gens qui veulent vivre libre, heureux et nombreux.
Vous êtes
Edouard Baird? Oui. Non, si vous voulez, c'est Virgin, alors c'est Camille Combal?
Exactement, ouais, vous êtes en direct sur Virgin Radio.
Je vais vous demander un service, Camille.
Dites-moi.
Je vais dire, voilà, on a depuis des semaines trois pubs de bagnoles tous les quarts d'heure et il y a un pick-up Nissan, je n'en peux plus, je ne compte pas l'acheter le pick-up. Je vais vous dire franchement, ils ne le comprennent pas. Je n'ai pas envie, Paco, personne ici ne veut l'acheter.
Non, on n'a pas envie d'acheter le Nissan.
Mais c'est pas contre Nissan personnellement.
Non.
Moi, je suis ami de Jean-Claude Nissan, je vais passer des week-ends chez lui. Je me disais, Camille, si vous aviez la gentillesse, vous avez peut-être plus d'auditeurs, vous êtes une grosse radio, je sais qu'il y a des morceaux de faisan et de caviar sur les murs, c'est très luxueux chez vous, je sais que vous avez un costume en satin avec des montres en or. Si vous avez la gentillesse, on va vous, très gentiment, soyez gentils, envoyez-lui un tout petit peu la pub pick-up Nissan.
Je vois sur votre
vous voyez
vous êtes polyvalent. Alors, avec de très bonnes qualifications.
Voilà, vous voyez le mec est énervé.
3 tonnes 5 de capacité de remorquage.
Voilà.
3 tonnes 5.
Ben oui, le mec
vous
est
avez
Vous avez vu
constructeur 5 ans
et il a une voix à clope quoi.
Moi, je veux bien parce que déjà Nissan sont des voitures de qualité, donc sinon je le ferai pas.
Bah non, mais bien sûr. Tiens, envoyez-lui la Peugeot et la Renault. Il a l'air de bonne composition, Camille Combat. Camille, ça vous embête pas? Camille a tout petit peu de pub.
D'avoir une Peugeot.
Voilà, regardez, le mec est suave, le mec est doux. Il y a de la tendresse. C'est une Peugeot caresse, c'est une Peugeot douceur.
Alors, vous l'avez compris, Edouard Baird, Radio Nova a pris l'antenne de Virgin. On n'était pas au courant. Mais c'est quoi, par quel système vous avez
On a un hacker qui est un type qui est guatémaltèque, qui est là. Ce sont des méthodes sud-américaines de contre-révolution. C'est grâce à lui que Trump n'a pas été élu, puisqu'il a réussi à contrer les attaques de Poutine sur les élections américaines. C'est grâce à lui aussi que Valls a été choisi à la primaire socialiste. C'est donc un type de toute confiance.
Merci de reconnaître mon travail,
et qui est en train de vous hacker, mais c'est pas du tout un hack contre vous, c'est simplement partager, share la publicité, que la publicité vive. Ça vous embête pas?
Alors moi, Edouard, moi je peux faire un geste pour vous. Il y a un peu plus du pick-up, je peux l'entendre. En revanche, il faut faire un geste pour moi.
Oui.
Et je vais vous faire écouter, va falloir me prendre la pub Cocorette.
Ah, vous y allez fort. La pub Cocorette. Allez-y, je suis prêt. Je peux la prendre peut-être. J'ai peut-être des clients pour Cocorette, allons-y.
Pour Cocolanta, Cocorette, ça vous va?
Allez, envoyez, je vais en faire quelque chose.
Bon, bah, c'est super, bah, c'est un bon échange, je suis content. Je suis ravi de vous entendre. Hein.
Mais je croyais que vous alliez me l'envoyer là.
Ah ben je vous l'ai mis, hein, vous l'avez pris un peu.
Ah c'est ça, cocorette, mais qu'est-ce que c'est, sous quelle forme des cocorettes, ça se mâche?
C'est un cocoland, hein, c'est vraiment, on passe dans un parc entièrement entouré d'eux, écoutez ça.
Oh tu me vends du rêve, môme. Cocorette, c'est un parc thématique ou avec de la coco? Avec des cocos, cocaïne communiste. Qu'est-ce que c'est, Cocoland? C'est Cocoland, c'est un hommage à Colarose, années 70-80.
C'est un dérivé du Colaro Show.
Ça fait rêver parce que les jeunes aiment ça. Vous savez qu'il y a un gros retour chez les 18-25 du Colaro. Il y a une grosse demande, hein, du Colaro Show.
C'est pas de Colaro, il y a une grosse demande?
Oui, il y a une grosse demande en ce moment. Je sais, dans les lycées, partout, dans la rue, les gens veulent de ça.
Où est Stéphane Colaro? Tout le monde se demande.
Il est en nous. Il est en nous. Merci. Mais alors vous avez 4 heures d'antenne, donc je peux de temps en temps vous envoyer un petit peu de pub?
Alors n'hésitez pas, vraiment, tout ce qui est en tout cas utilitaire pick-up,
on est à fond.
Là-dessus, donc vraiment, vous pouvez nous envoyer tout ce que vous voulez, Clément.
On a beaucoup de questions, elle est à combien la Nissan?
Alors moi je ne sais pas, parce que étant ami de Jean-Claude Nissan, j'ai tout à l'œil. J'en croque un tout petit peu, hein, c'est aussi ça les avantages de ce métier.
Histoire de gros sous.
Merci de votre accueil, en tout cas, je sais qu'au bout de 2 minutes d'antenne, on peut se faire repérer par la préfecture, on est obligé donc de se barrer.
Il faut vite la rendre,
me dit le hacker Exema 34.
Très vite.
On se barre tous. Merci Camille Combal, merci.
Merci Edouard, merci mille fois d'être venu.
Merci de votre accueil, et puis dès qu'on a du Nissan, on vous l'envoie. Merci.
Vive les pick-up, vive Camille Combal,
merci. Partout, partagez le commerce, c'est ça, c'est une main tendue depuis la route de la soie, depuis Christophe Colomb, les hommes et les femmes ont pris la route pour non pas vendre mais présenter, pour proposer, pour offrir leurs marchandises. Alors aujourd'hui une pick-up Peugeot, demain peut-être un foulard de soie pour la fête des mères. Rendez-vous ce jour-là. On se barre tous. Bon, on vérifiera si ça a marché, si le fait d'avoir passé cette pub Nissan à une radio qui a
Vous connaissez Jean-Claude Nissan alors?
Oui, c'est un
personnellement.
Le mec est droit dans ses bottes, je vous raconte. Bon, c'est bon, on est revenu. Ah, alors, il a écouté toute cette petite diversion, ce petit hacking, c'est ammoniacal.
Oui.
Ammoniacal, tu as eu peur à un moment, tu étais dans le studio, tu as eu peur qu'il y ait du danger pour nous.
Je me suis caché sous des herbes et j'ai attendu et après... Vous m'avez dit de revenir. Alors.
Mais c'était vrai parce que c'est pas. Il fallait juste se cacher s'il y avait des caméras de contrôle chez Virgin, mais une fois qu'on a vu qu'il n'y en avait pas, on pouvait revenir. Mais
des gens. On m'a marché dessus. Alors je me suis.
Ammoniacal, peut-être représente-toi pour les auditeurs.
Je suis moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon.
Ta partie préférée par les humains, c'est la partie chiffon.
Ça dépend qui les. Les femmes, c'est plus ma partie homme.
Tu veux nous faire ton petit
jingle?
Ton petit jingle?
Mignon, ammoniacal.
Ammoniacal, reste avec nous, on va participer à un petit jeu que nous organisait Charlène.
Pourquoi?
Pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas?
Ne sois pas insolent. Hein.
Non, si tu veux en savoir.
Parce que tu es scolarisable, tu sais, tu as beau être hideux, tu pourrais aller à l'école.
Je suis hideux.
Ah merde.
sans le père.
Bon, pendant que Maniacal pleure, Charlène, quel est le jeu des sons aujourd'hui?
Eh ben, c'est le jeu des sons d'aujourd'hui.
On est complètement à la masse.
Je
sens Thomas Moumer effaré par l'émission d'aujourd'hui. Thomas, il y avait une belle tenue, on a eu le canard enchaîné,
on a
parlé de Marine Le Pen. Le mot
J'ai l'impression que vous me mettez dans une case, Edouard.
Alors, c'est quoi les sons, Charlène? Il faut reconnaître des sons?
Exactement.
Les auditeurs peuvent le faire chez eux?
Bien sûr.
Très bien, ils peuvent nous appeler peut-être?
Ils peuvent deviner tout seuls chez eux, puis s'ils sont gagnés, ils sont contents.
43 01 43 07 58 85, si vous reconnaissez ces sons. Alors on
a un jingle qui explique très bien la règle du jeu.
Ah bon, je ne sais pas. Ouais, C'est remarquable. Vous avez bien fait de le fabriquer. Il a fallu du monde pour ça.
20 personnes.
Non, mais c'est Catherine.
Du Chevalier de Rinchy.
Sortir là?
Non, tu participes au jeu à Maniacal.
Non, mais j'ai eu peur.
Mais tu as peur de tout. Alors, allons-y.
Essuie-glace.
Quelqu'un qui fait l'amour avec des nems.
Presque.
Deux personnes qui se frottent sur une vitre.
Presque.
Alors, on est dans le monde de la vitre. Il y a un piston, il y a un aller-retour, il y a un truc...
Quelqu'un qui fait l'amour avec des samoussas.
Presque.
Non, pas presque, non. Quand même, non.
Est-ce qu'il y a une histoire d'amour dedans, comme il dit Ammoniacal?
Non, c'est dans le monde animal.
Alors, c'est un animal, c'est un âne qui, on a enlevé, qui a été bâillonné parce qu'il disait la vérité?
Non.
Il y a des porcs dans un enclos?
Non.
On tire la queue de l'âne et il en sort de...
On traîne une vache?
Non.
On traîne un animal qui n'est pas fait pour ça?
Non.
C'est un âne qui mange des nems?
Non.
Décidément, vous êtes dans un nem.
On traite quelqu'un, il y a de la traite?
C'est dans l'eau. C'est
un on traite de l'eau. Ah,
c'est un poisson. C'est des nems qui mangent des ânes.
C'est un poisson.
Bon, je vous dis, c'est une baleine à bosse.
Pardon?
C'est une baleine à bosse.
À bosse?
Ah, ben oui.
Je le savais, mais il fallait me dire que c'était ce jeu-là.
Vous aviez les réponses.
Je l'avais.
Vous le saviez?
Oui. Alors, autre chose. Alors, c'est pas bien de tirer des feux d'artifice près d'un camp militaire.
La pétanque?
Et c'est moussa?
Des balles de tennis quand on s'entraîne avec un canon à tennis, un canon à balles à tennis?
Non.
Bon. Boboune?
Un chien?
C'est dans le règne animal?
Non,
des artificiers?
Pas du tout.
C'est la guerre?
Pas du tout.
Il faut pas le faire chez soi?
Faut pas.
C'est Fillon qui frappe sa femme parce qu'elle a piqué du pognon?
Pas du tout.
Un chien?
Il y a du ping-pong sur des êtres humains?
Non.
Avec des boules de pétanque à la place?
Non.
Est-ce que c'est avec un animal?
Non.
Alors, est-ce qu'on a une auditrice ou un auditeur qui pourrait répondre à ce son? Passez-le nous, Eugénie, s'il vous plaît. Allô?
Oui, allô?
Vous avez... Bonjour, madame.
Oui, bonjour.
Je me permets de dire madame à votre voix, mais après, on ne sait pas, peut-être, non?
Oui, si, c'est tout à fait ça.
Vous avez reconnu ce son?
Oui, alors je pense que c'est un coq.
Un coq?
Non.
Alors, peut-être que vous écoutez une autre radio en ce moment? Ou vous habitez vous-même dans une ferme?
D'accord.
Alors restez avec nous pour le prochain son, parce que celui-là, vous n'êtes pas au
l'embauchard.
Alors ce son-là, ce sont des bulles de savon qui explosent parce qu'elles ont été remplies d'acétylène.
Ce sont des... Alors ça peut être à moi.
Ce sont des bulles
moi,
de
j'ai
savon.
Pas écouté ce que vous avez dit. Je pense que ce sont des bulles de savon qui explosent sous l'effet de l'acétylène.
Oh,
exactement,
là, vous êtes
quand
fort,
elles passent au-dessus d'une flamme.
Non, mais comment voulez-vous qu'on trouve ça? Enfin,
oui, c'est difficile. Des sons faciles.
Madame, restez avec nous pour le prochain son. Quoi qu'il arrive, je sens que vous allez gagner.
Facile.
Le prochain son qu'on écoutera.
C'est le dernier. Ah, c'est le journal. La pub? Non, il n'y a pas encore de la pub, c'est pas possible. On vient de s'en débarrasser.
Je suis désolé.
Alors, est-ce qu'on a Jack souvent ou pas?
Oui.
Jack, pub d'abord?
Oui.
Pub, restez courage. Et puis les 30 glorieuses, on ne peut pas me faire tout ça. Je suis perdu.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Nous, représentants de l'émission Plus près de toi, Atmen Khelif, ouais. Arnaud Aymar, Édouard Baird, nous vous rendons l'antenne solennellement, Yacine Benatar et Thomas Barbazian, en vous priant de nous excuser pour ce retard. Cela ne se reproduira plus. Tout est de la faute de Thierry Paret, qui est là.
Pardon, je m'excuse.
Nous vous le laissons, nous allons quitter le plateau. S'il lui arrive des choses, il lui arrivera ce qu'il fera. Moi, on avait fini correctement.
À l'heure.
Et là, il est 9h03, je ne comprends pas ce qui se passe.
Pardon.
On vous laisse avec Thierry, je sais que vous êtes champion de karaté. Bravo en tout cas pour le sport que vous pratiquez.
Merci Edouard.
Merci messieurs, merci. Je vois que vous êtes venus avec votre avocat. Bonjour maître. Voilà, on part dans le calme et avec du remords et de la honte en nous.
Quelle honte.
Thierry, il faut rendre l'antenne.
Même,
on fait pas de flash, on n'est pas obligé non plus.
Même Tropic FM rend à l'heure.
Edouard Baird. 7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.